38. On est Bezrat Hashem dans le cinquième cours sur
chapitre 49,
Perek Memtet. Ubanu Bacharta Mikolam Velashon. Donc pour faire le point où on en est, qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à présent? On a expliqué que dans le schéma, on retrouvait quelque chose de très particulier. On nous demandait de Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha. Dans le Kriyat Shema, on nous demandait de sacrifier, ça veut dire quoi, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais en gros, ce qu'on a expliqué. Yaakov, c'est bon. Yaakov. C'est bon.
C'est le comique de répétition.
On a expliqué que Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, bien, parce que ça dérange. C'est bon, Yaakov. C'est toi. J'attends que vous vous calmez et après on...
Que vous calmiez.
On a expliqué que Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, il doit savoir que pour Akadosh Baruch Hu, il faut tout donner. Et que de la même manière qu'on a expliqué dans les six cours précédents, comment Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a dû se contracter, il a dû faire un tzimtzum. De la même manière, nous aussi dans notre vie, on doit apprendre à se contracter. On doit apprendre à faire abstraction de notre ego. Et que c'est ça la mission pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre sur terre ici-bas. Ça, c'est encore plus important que les mitzvot et tout ça. Ça, c'est le point principal. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre dans le monde ici-bas? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on fasse abstraction de notre ego, de la même manière que lui a fait abstraction de soi-même, et que quelque part, en nous créant, ben, il nous a donné une sorte d'autonomie. Akadosh Baruch Hu a fait abstraction de soi-même. D'accord? Donc, après, on avait donné des exemples, avec l'exemple de la personne qui est défavorisée, que le roi va faire prendre dans son palais, et qui va être, il pourra pas être insensible. Je veux pas reprendre cet exemple-là. Le point où on veut s'arrêter, c'est le point qu'on s'arrêtait la semaine dernière. Il a dit, c'est bien beau ce que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis qu'un juif, il a la possibilité de faire abstraction de son ego. Et de dire que tout est pour un Kadosh Baruch Hu. On a posé la question la semaine dernière, on a dit, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est pas possible. Hein, Yaakov? Allez, c'est bon, le bichemin. On a dit c'est pas possible.
Oui, c'est pas possible.
C'est impossible a priori. On sait très bien que qu'est-ce qui fait vivre les hommes, qu'est-ce qui fait vivre les animaux, qu'est-ce qui fait tout vivre? C'est l'ego. Pourquoi j'ai envie de me marier? Parce que je suis persuadé qu'en me mariant, je vais avoir quelque chose. Que ce soit pour la femme ou pour les enfants ou pour ce que tu veux. Mais je vais avoir quelque chose. Pourquoi j'ai envie d'avoir des enfants? Pour quelque chose. Pourquoi j'ai envie de travailler? Pour quelque chose. Pourquoi j'ai envie de faire le Shabbat? Pour quelque chose. Parce que je veux me sentir bien.
Ça m'intéresse.
D'accord? Ça m'intéresse. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est par intérêt. Toi, qu'est-ce qui vient de Mourazaken maintenant? Il dit non. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? On a expliqué en long, en large, que Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre à tout donner à Akadosh Baruch Hu, d'accord? À sacrifier tout ce qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, sans attendre quelque chose de retour. Sans avoir un intérêt quelconque. Mais c'est pas possible. Même pas un intérêt sacré, mais c'est impossible. C'est pas possible. La logique humaine ne tourne pas comme ça. La logique humaine nous dit que il faut chercher un intérêt, même si c'est un intérêt spirituel, mais il faut un intérêt. Et là, qu'est-ce que nous dit Edmond Razakan? Il dit non. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ça veut dire qu'on donne tout pour Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous ce qu'il avait dit. Afilu ahavat isha ubanim, même l'amour de sa femme et de ses enfants, qui est a priori un amour normal, un amour, je veux dire, un amour qui, j'aime ma femme, parce que j'aime ma femme, c'est tout. On te dit non. On ne peut pas réfléchir, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut dire, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Chaque fois, il faut réfléchir comme ça. On dit, mais je sais pas, on dirait qu'on parle à des malachim, ça ne nous concerne pas. Alors, Al-Mourazaken a expliqué que, puisque dans la tfila, ceux qui ont composé la tfila savent très bien que c'est quelque chose a priori inaccessible, c'est pour ça qu'avant le Kriyat Shema, ils ont instauré les brachot du Kriyat Shema, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir avec le Kriyat Shema, d'accord? Et que si elles ont été instaurées juste avant le Kriyat Shema, c'est la seule raison, c'est parce que c'est une préparation au Kriyat Shema, c'est pour préparer l'esprit de la personne à ça. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ces grandes brachot du Kriyat Shema? Deux points qu'on a expliqués la semaine dernière. Dans la première bracha avant le Kriyat Shema, la bracha du Yotzer Ovoecho, cher, de quoi on parle? On a expliqué la semaine dernière. On parle principalement des anges. Des anges. Et on explique principalement comment Akadosh Baruch Hu est très très grand. En d'autres termes, on fait comprendre à l'homme que Dieu n'avait pas besoin de lui. Il avait des malachim, il avait tout ce qu'il veut, il n'avait pas besoin de nous. Ça, c'est ce qu'on fait jusqu'à Yotzer HaMeorot. Depuis Yotzer HaMeorot, jusqu'à Yotzer HaMeorot, on va parler des anges, on va parler de la nature, on va parler de tout ce que tu veux, sauf de l'homme. Pourquoi? Pour faire comprendre à l'homme que, Akadosh Baruch Hu, bonsoir, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de toi pour faire son monde. Il avait des malachim, il avait la nature, il avait tout, il n'avait pas besoin de toi. Ça, c'est la bracha jusqu'à Yotzer Ameot. À partir de Ahavat Olam Aftanu, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on va parler principalement du... C'est là qu'on va parler principalement du Am Israël. Ahavat Olam Aftanu, on va retracer tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a fait, d'accord? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu faire au Am Israël. Pourquoi on les rappelle? Alors on l'a expliqué. On a expliqué que le but de ce, donc de ce petit jeu qu'on fait avant le Kriyat Shema, comment d'un côté on rappelle comment... On a dit d'un côté on rappelle comment Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Et d'un autre côté, on nous montre comment Akadosh Baruch Hu, Ahavat Olam Aftanu, Akadosh Baruch Hu nous aime, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous a gratifié beaucoup plus que ce qu'il devait. Pourquoi on le fait? Pourquoi on fait ça? On fait ça, le but qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça. Vezeu Shekatuv Chemla Gedola Vitera. Maintenant on va reprendre voilà, deux lignes avant la fin de la page 138. On va bien décortiquer ce sujet, mais en tâchant aujourd'hui. Deux lignes avant la fin de la page 138. Vezeu Shekatuv Chemla Gedola Vitera. Où on dit ça, Chemla Gedola Vitera? Ça vous dit quelque chose?
Oui, quelque chose.
Où on dit ça? Dans Avatolam. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Chemla Gedola Vitera Chemal Talim. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu une chemla. Chemla en hébreu, ça veut dire quoi? Chamol.
Miséricorde.
Miséricorde. Pitié. D'accord, t'as une traduction en dessous.
Non.
Ah, d'accord.
J'ai pas vu.
Chemla Gedola Vitera. On dit que Chemla Gedola Vitera, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a une grande pitié envers nous. Vitera est supplémentaire. Quand tu dis supplémentaire, ça veut dire supplémentaire par rapport à quelque chose d'autre. Par rapport à qui? Par rapport au Malachi, exactement. Et là, on comprend bien la suite qu'il y a dans les deux brachot qu'il y a avant le Kriyat Shema. Yetera al kirvat elokim shebechot svamala. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette bracha? Donc, là, maintenant, on va décortiquer la deuxième bracha. Dans la deuxième bracha, on dit « Avat el mafsanu Hashem elokenu. Akadosh Baruch Hu, tu nous aimes d'un amour infini. Chemla gedola vitera chamalta alenu. Tu as une pitié particulière envers nous, d'accord? Et supplémentaire. Supplémentaire par rapport à qui? Supplémentaire par rapport au...
Genre.
Par rapport au Malachi. Mais attendez, on s'est arrêté ici la semaine dernière. Uvanu vacharta mikolam velashon. Qu'est-ce qu'on dit dans la Vatolam? Une phrase qu'on dit en une seule ligne, mais qui est très très forte. On dit que Akadosh Baruch Hu, Uvanu vacharta mikolam velashon, Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi toutes les nations, parmi tous les peuples et parmi toutes les langues. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est l'Admor HaZaken va nous le dire en une seule ligne. Sur cette ligne-là, il y a des dizaines de Mahamarim qui ont été écrits, donc des Admor HaZaken lui-même et d'autres Admorim de Chabad. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ou Agouf Achumri, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a choisi? Akadosh Baruch Hu a choisi le corps, Anidme Bechumri Yoto Legoufe Umata Olam, notre corps qui ressemble matériellement au corps des autres nations. Ça veut dire comme ça. C'est expliqué comme ça. Imaginez-vous que vous rentrez chez un concessionnaire auto, pour acheter une voiture. Pour acheter une voiture. D'accord? Donc, vous expliquez au concessionnaire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de votre voiture, combien de place vous voulez, quel coffre vous voulez, etc. Il dit voilà. Je pense que la voiture qu'il vous faut, c'est celle-là. J'ai trouvé la voiture qu'il vous faut.
30 000 euros.
Très bien. 30 000 euros et je prends ma com dessus. Pas de problème.
Non, ça marche.
D'accord? Oui. Voilà, j'ai trouvé la voiture qu'il vous faut, c'est celle-là. Très bien. Après, le concessionnaire te dit, mais si vous voulez, je vends aussi un lecteur MP3, un iPod. Est-ce que vous voulez un iPod?
Oui.
C'est intéressant, un iPod. Alors, quelle va être vos réactions? Tu vas dire, monsieur, c'est intéressant, le iPod, mais je ne suis pas venu pour acheter un iPod. Je suis venu pour acheter une voiture. Donc, bien sûr, je vais acheter une voiture. Alors, c'est expliqué la même chose dans le Midrash. Le Midrash, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que, Akadosh Baruch Hu, Ubanu bacharta mikolam velashon, que Dieu nous a choisi parmi les autres nations. Mais il n'y a rien à choisir. Les autres nations n'ont pas la nefesh elokit comme nous. On dit que lorsque Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a choisi. Mais il n'y a rien à choisir. C'est comme si tu me dis, je viens pour acheter une voiture, je dis, ah, j'ai choisi la voiture et pas le lecteur MP3. Mais c'est normal, tu es venu pour acheter une voiture. Le lecteur MP3, c'est pas une voiture. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu, Ubanu bacharta, il nous a choisi? Le terme choix en hébreu et le terme prira ne peut exister. Alors ça, on avait fait un long cours sur ça il y a, hein, Yaakov, rappelle, 3 ans, toi tu dis que c'est à Shavuot. Bon, pour expliquer que le terme prira en hébreu, le terme du choix en hébreu, ne peut exister que s'il y a réellement un choix qui peut être fait. Ça veut dire, par exemple, d'accord, tu me donnes 2 bislis, je peux choisir celui de droite comme celui de gauche. Et les deux sont valables. D'accord ? Ça, c'est bachar, prira en hébreu. C'est un choix, d'accord ? C'est un choix, il faut deux choses au minimum. Donc d'après ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu a choisi, Kadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif. Quand on dit qu'il a choisi le peuple juif, il a choisi quoi dans le peuple juif ? Il y a les neshama du peuple juif, et il y a le corps du peuple juif. Si tu me dis qu'il a choisi la neshama du peuple juif, ça ne s'appelle pas un choix. Puisqu'on a dit qu'un choix, c'est uniquement quand il y a deux choses qui sont relativement, enfin qui sont presque les mêmes, sont semblables. Alors que là, ils ne sont pas du tout semblables, les goïms n'ont pas de neshama. Donc il n'y a rien à choisir, le choix était évident. C'est comme si je te présente une pomme pourrie et une pomme qui est bonne. Je dis, j'ai choisi la bonne pomme.
Donc c'est le corps.
D'accord ? Donc, de là on est obligé de dire que lorsqu'on dit que Banu Bachartan Mikolam Velachon, lorsqu'on dit Ata Vechartan Mikolamim, d'accord ? C'est dans la Tfila. On le dit, c'est écrit clairement aussi à Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il nous a choisi. Le terme pris en hébreu, ça veut dire qu'il a choisi quoi, Kadosh Baruch Hu ? C'est pas notre Neshama. Parce que ça, c'est déjà choisi depuis la création du monde. C'est pas un choix, ça. C'est quoi le choix ? Ah ! Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, ça veut dire quoi ? C'est quoi ou Banu Bacharta ? Vous n'attendez pas à ce que vous veniez après la journée.
Oui.
Azak. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu Banu Bacharta Mikolam Velachon, qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, page 138 en bas de la page, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le corps du peuple juif. Et là, il y a réellement un choix. Pourquoi là, il y a un choix ? Puisque le corps d'un juif, d'accord, est pareil que le corps d'un non-juif. Donc là, avec ça, on nous montre encore plus comment Akadosh Baruch Hu nous donne quelque chose qui, sans raison, Akadosh Baruch Hu va être proche de nous, mais pour des choses qui sont a priori sans raison. On a expliqué tout d'abord comment Akadosh Baruch Hu est très près de nous, encore plus que les anges, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison. On a expliqué comment Akadosh Baruch Hu nous a choisi, il n'a pas choisi notre âme, mais il a choisi notre corps. Ensuite, Vekeravtanu Khule, Leodot, ou Firush Odaa, Idbaer, Bemakom Acher. D'accord ? On dit comme ça, qu'est-ce qu'on dit après dans cette deuxième racha de la Mida ? On dit Vekeravtanu Malkenu, Leodot, Le Shimcha Agadol. Que Akadosh Baruch Hu, il nous a approché de lui. Lehodot, le Shimcha Agadol. Lehodot, ça veut dire pour remercier. Alors, Lehodot, ça, il dit ici que Moshe Idber Makom Acher. Qu'est-ce qu'il explique à Zaken ? Il explique dans Torah la chose suivante. Il dit que, quand on dit que le terme Oda'a dans la Tfila, comme Modi Manar Tmulach, c'est comme quand on dit dans la Mishnah, on dit Modim Chachamim et Rabbi Meir. Par exemple, on dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Ça veut dire quoi le terme Modim ?
Reconnaître.
Ça veut dire reconnaître. Ça veut dire quoi reconnaître ? C'est bien ce qu'il explique Edmond Azaken. Reconnaître, ça veut dire que... Exactement. Accepter. Quand on dit, par exemple, dans la Gemara, on va te dire qu'il y a une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Et on dit que Rabbi Meir va être d'accord avec Chachamim. Ça veut dire quoi qu'il va être maudit Chachamim, Rabbi Meir ? Ça veut dire que Rabbi Meir continue toujours à penser son point de vue.
Mais il accepte un
Mais il va accepter, d'accord, le point de vue de l'autre. Donc c'est pas exactement d'accord. D'accord, c'est pas une bonne traduction. Et si tu dis d'accord, ça veut dire que je suis arrivé à la conclusion que tu as raison.
Je suis convaincu.
C'est pas comme ça. C'est expliqué, la demande Zaken explique en Torah, c'est-à-dire que quand on dit que, par exemple que Chachamim sont modim, d'accord, Rabbi Meir ou le contraire, ça veut dire quoi modim ? Modim, ça veut dire qu'il continue toujours à penser son point de vue, à moins que bon, son point de vue a été cassé, mais en général, il n'est pas cassé, d'accord ? Quand on dit qu'il est d'accord, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a accepté. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit dans la... Eh bien, Nafkamina, c'est pour chez nous maintenant. La Nafkamina, ici, c'est quoi ? On dit, Vekaraftanu Malkenu, Lehodot, Leshimcha Agadol Be'ava. Que Kadosh Baruch Hu, la chance qu'il nous a donnée, c'est quoi ? Lehodot, Leshimcha Agadol Be'ava. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous donne la force d'accepter le joug divin, même si notre corps n'est pas d'accord avec ça. Ah oui, c'est ça le problème. C'est que notre corps n'accepte pas. Ou il n'accepte pas, ou il n'est pas intéressé. Et quand on dit Vekeraftanu Malkenu Lehodot Leshimcha Agadol, qu'Akadosh Baruch Hu nous a attirés vers lui comme un aimant, Lehodot Leshimcha Agadol, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné une force particulière au Ham Israël, qu'on a la possibilité d'accepter le joug divin, même si notre corps n'y est pas d'accord. Et donc ça c'est toujours dans la deuxième bracha. Dans la deuxième bracha avant le Kriyat Shema, on va être en train de citer les bienfaits particuliers qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël. Tout d'abord, on a expliqué ce que le Ham Israël avait de plus par rapport au Malachim. Après, on a expliqué comment Akadosh Baruch Hu a choisi non pas seulement la neshama du peuple juif, mais il a choisi même le corps du Ham Israël. C'est pour ça qu'on dit que le gouf d'un juif, il est kadosh. Il y a des halachot particulières autour de l'enterrement, il y a des halachot autour du corps d'un juif, qu'il n'y a pas autour du corps d'un goy. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est écrit que quand on dit Banu Bacharta Mikolam Velashol, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, qui il a choisi Akadosh Baruch Hu ? Il a choisi notre corps, le corps du juif. Il n'a aucune raison de le faire. Tout ça, c'est juste qu'il n'a aucune raison. Pareil, le Hodot Lecha, le fait que Kadosh Baruch Hu nous donne la force, d'accord, et la possibilité d'accepter le joug divin, même si on ne comprend pas. Ça, il n'a pas donné aux anges. Au contraire, qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière ? On a expliqué que les anges qui sont séraphim, qui sont en train de brûler, pourquoi ils brûlent ? Pourquoi ils sont en train de brûler constamment ? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils veulent constamment comprendre, mais ils ne peuvent pas comprendre. Et comme ils ne peuvent pas comprendre, qu'est-ce qui se passe ? Ils se consument. Parce que quand on ne comprend pas, ça explose. C'est normal. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la force, comme force à l'homme ? Akadosh Baruch Hu a donné la force à l'homme que même si tu ne comprends pas, d'accord ? Même si tu ne comprends pas, tu n'exploses pas. Modiman Artoulard, quand même tu vas continuer à accepter ce que Akadosh Baruch Hu dit, en restant sous le tué. C'est quelque chose que Dieu n'a pas donné aux anges. On a expliqué que tous les anges, n'ont pas cette possibilité, n'ont pas cette capacité. Dès qu'ils ne comprennent plus, ils explosent. Ah, on avait donné avec les ordinateurs. Dès que tu viens quelque chose qui ne comprend plus, il explose.
Il bug.
Et qu'est-ce qui donne à Kadosh Baruch comme faculté aux hommes ? Le Hodot Lecha. Le Hodot Lecha, Kadosh Baruch nous donne la possibilité d'admettre et d'accepter le joug divin sans que pour autant le corps ne l'a accepté. Ça, c'est un exploit. On continue. Ou le Yachetra. Pirouche, l'ikal el biyichudo itbarer kanal. Ensuite, toujours dans la deuxième racha, qu'est-ce qu'on dit ? Le Hodot Lecha, donc le Hodot Lecha vient d'expliquer, ou l'Yachetra, ou l'Ehava et Shemecha. Ça veut dire quoi, le Yachetra ? Le Yachetra, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, encore une fois, toujours dans les exploits qu'Akadosh Baruch Hu fait, donne la possibilité à un juif, tout en restant dans son corps ici-bas, il lui donne la possibilité de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. C'est un paradoxe. On a expliqué la semaine dernière que les Malachim, dès qu'ils cherchent à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite ils brûlent. Alors que nous, non seulement qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force d'accepter le divin, sans qu'on bouge, deuxièmement, Akadosh Baruch Hu nous donne la force, l'Yachetra, de s'unir avec Akadosh Baruch Hu par le biais d'une mitzvah ou par le biais du Limud HaTorah, par exemple. Et ça, c'est des exploits. Ça veut dire que, si on va résumer ce que j'ai expliqué, on voit que dans la première bracha qui est avant le Kriyat Shema, on va parler principalement de la beauté de la nature d'Akadosh Baruch Hu, de la beauté des Malachim, on ne parle pas du tout de l'homme. On va parler des luminaires, des anges, tout ce que tu veux, sauf de l'homme. Pourquoi ? Parce que le but de la première bracha, c'est de montrer à l'homme qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de nous pour faire son monde. Il avait tout ce qu'il faut pour faire son monde et il serait encore mieux que il serait encore beaucoup mieux que ce que nous on l'a rendu. Ensuite, dans la deuxième bracha, qu'est-ce qu'on te montre ? On te dit, tu vois tous ces malachim que je viens de te parler ? Ahava tola maftanu. Akadosh Baruch Hu nous aime encore plus que tout ça. Et on donne des exemples. Le Shulchan Aruch, c'est que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans la halachot qui sont sur le... Dans la halachot, sur la deuxième bracha, hein, c'est écrit qu'il y a des kavanot particulières à avoir dans cette bracha. D'accord ? C'est écrit qu'il y a des mots particuliers dans lesquels on doit penser à la traversée de la mer Rouge, dans lesquels on doit penser au don de la Torah. D'accord ? On doit penser aussi à la guerre de Amalek. Tous les grands miracles qui nous sont passés depuis la sortie d'Égypte jusqu'à qu'on est rentré en Israël. D'accord ? C'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est une sigoula particulière de penser à ça, selon un avis, c'est même obligatoire, de penser à ça pendant la deuxième bracha. Pourquoi ? Parce que dans la deuxième bracha avant le Kriyat Shema, c'est quoi le but de cette deuxième bracha ? Le but de cette deuxième bracha avant le Kriyat Shema, c'est de réaliser la chance qu'on a qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné par rapport au Malachim. Maintenant, pourquoi il y a ces deux brachot ? Pourquoi ces deux brachot ont été instaurées ? Ces deux brachot ont été instaurées avant le Kriyat Shema. Rappelez-vous la question qu'on a posée il y a deux semaines, la question que le Rashba pose. Le Rashba dit qu'on voit que si quelqu'un il fait Arvit, alors qu'il fait encore jour, d'accord ? Donc il n'est pas qui du Kriyat Shema. Le soir, il devra refaire le Kriyat Shema. Et pourtant, lorsqu'il fait Arvit en plein jour, il fait quand même le brachot du Kriyat Shema. Pourquoi il fait le brachot du Kriyat Shema ? Puisque de toutes les façons, il n'y a pas le Kriyat Shema. C'est la première question qu'il a posée le Rashba. Deuxième question qu'avait posé le Rashba, il avait dit, si quelqu'un fait le Kriyat Shema le matin, d'accord, le matin avant la Tfila, par exemple dans le cadre des brachot, juste après les brachot, il fait le Kriyat Shema parce qu'il veut manger quelque chose, sans ça il ne peut pas manger, il est qui du Kriyat Shema ? Et pourtant, lorsqu'il va arriver au schéma, donc dans le cadre de la Tfila, il refait les brachot du schéma. De là, le Rashba, il prouve qu'en vérité, les brachot du Kriyat Shema, ne sont pas liés au schéma. En vérité, ce n'est pas les brachot du schéma. c'est les brachot qui ont été cadrés autour du schéma. Mais en vérité, ce n'est pas les brachot du schéma. D'ailleurs, il amène une preuve là-bas aussi. Il dit, c'est pour ça qu'on ne dit pas, parce que les brachot du Kriyat Shema, on avait expliqué, ne sont pas liés, d'accord ? Ne sont pas, enfin, c'est pas les brachot qui sont autour du schéma. Ah, pourquoi on les a calqués autour du schéma ? Ça va être moi, Zakel va expliquer maintenant. Pourquoi on les a calqués autour du schéma ? C'est parce que puisque dans le Kriyat Shema, c'est quoi le but du Kriyat Shema ? On a dit Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le but du Kriyat Shema, c'est d'arriver à un niveau d'humilité et d'effacement face à Kadosh Baruch Hu, de dire que toute ma vie est que pour Kadosh Baruch Hu et que je mets entièrement mon ego de côté. De la même manière que Kadosh Baruch Hu s'est mis de côté pour créer le monde, comme ce qu'on a expliqué. Alors, pourquoi on a instauré ces deux brachot avant le Kriyat Shema ? C'est pour nous faire penser à tout ça. Maintenant, la question qu'on va tous se poser, mais à la vitesse où on lit le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema le matin, d'accord ? Est-ce qu'on a le temps de se poser cette question ? Regardez ce qu'il y a de moi, Zakel. Veine. Kaasher yassim amaskil ele advarim elunka deliba umocha. Lorsque celui qui va réfléchir va réussir à placer ces paroles-là, ça veut dire va réussir donc à réfléchir à ces choses-là, elunka deliba umocha, il va réussir à intégrer ça au plus profond de son cœur et de son esprit. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ici là de Mourazaken ? Mourazaken ici veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu me dis, quand on parle de la kavana, on en a parlé un petit peu ce matin, brièvement. Quand tu me dis qu'il faut avoir la kavana dans la tfila, ça veut dire quoi la kavana dans la tfila ? Alors, on sait par exemple que chez les goyim, quand on parle de méditation, c'est quoi la méditation ? C'est quoi la définition de la méditation chez les goyim ?
Ça dépend de laquelle, tu crois ?
En général, c'est quoi la définition de la méditation chez les goyim ?
Détacher de la partie matérielle.
Très bien. Donc, c'est quoi comment on fait pour méditer ?
Méditer, c'est réfléchir sur...
Comment on arrive ? C'est quoi la méditation ? Qu'est-ce qu'ils font pour méditer ?
On oublie son cœur.
Il faut se détendre.
Il faut. Ça veut dire quoi, la méditation ? Dans la méditation, en général, chez les goyim, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut vider ton esprit de toute autre pensée. En général. Non, peut-être qu'Yakov, il nous dira peut-être qu'il y a d'autres...
Non, ça, c'est pas la concentration.
D'accord ? Voilà, justement, non, attends. De manière générale, la méditation chez les goyim, c'est quoi ? C'est vider son esprit. C'est vie, après, je nous dira la définition. C'est vider son esprit. D'accord ? C'est vider son esprit, ça veut dire pardon ? Alors, on va voir, on va expliquer. De manière générale, qu'est-ce qu'il explique ? Il dit c'est quoi la méditation ? Méditation, ça veut dire il faut vider ton esprit. Et une fois que tu as vidé ton esprit, automatiquement, d'accord ? Ton esprit va se mettre à réfléchir aux choses qu'il a envie de réfléchir. Là, on explique que dans la Torah, peut-être qu'il y a d'autres religions, c'est comme ça. En tout cas, dans la Torah, on explique que c'est quoi le concept de Kavana ? Le concept de Kavana, ça veut dire se concentrer sur quelque chose de particulier. Pas seulement vider son esprit. C'est-à-dire pas seulement le fait de ne pas réfléchir à ses affaires. Pas seulement le fait de ne pas réfléchir à ce qui peut me déranger et de vider mon esprit. Non. Kavana, c'est pas seulement ça. Kavana, c'est surtout le fait de concentrer mon esprit pour quelques secondes ou quelques minutes pour avoir l'esprit qui est bloqué sur quelque chose. Ça, c'est ce qu'on nous demande dans la Kavana. Le Rav Sinzel, c'est ce que je vous dis juste sur le Rav Sinzel, qui explique. Il dit qu'on voit que qu'est-ce qui fait que la réflexion se transforme en sentiment, c'est la concentration. Par exemple, il y a un exemple très simple. D'accord ? Quelqu'un, il vous a fait une crasse. Pourquoi ça va m'énerver ? À quel moment ça m'énerve ? Si je n'y pense pas, ça ne va pas m'énerver. Peut-être que ça me touche un petit peu, mais si j'y pense pas, ça ne va pas m'énerver. À quel moment ça va m'énerver ? C'est quand je me mets à réfléchir, à méditer. Je me dis, mais tu t'imagines, il a fait ci, il a fait ça, c'est grave, etc. C'est là que ça t'énerve. D'accord ? Très bien, attendez. Donc ça veut dire que je me suis concentré sur la chose. Deuxième exemple. D'accord ? Quelqu'un que j'attends n'est pas encore rentré. Bon, je peux continuer à faire ce que j'ai à faire. D'accord ? Je peux continuer à faire ce que j'ai à faire. Sans que ça m'angoisse, je continue. À quel moment ça va m'angoisser ? À quel moment je vais m'angoisser ? C'est lorsque je vais commencer à réfléchir. Ce qui a pu lui arriver, ce qui aurait pu lui arriver. Je me suis imaginé, il n'est pas rentré, peut-être que si. Et plus je vais réfléchir, et plus je vais m'angoisser. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réflexion, la concentration, va créer un sentiment. D'accord ? Et on le voit clairement dans notre vie. On voit que plus on réfléchit à quelque chose, et c'est ça ce qui va créer le sentiment. Dès que tu arrêtes de réfléchir, le sentiment va partir. D'accord ? Oui.
Qui avait une connotation déjà orientée.
Oui.
Si tu te mets à réfléchir, sur une problématique, je vais prendre de mathématiques. Pas sentiments qui vont être générés.
Bien sûr.
Tu vas travailler, tu vas
il faut que le sujet, déjà au départ, il est.
C'est pour ça qu'un sentiment va. Façon dont ils arrivent à comprendre, ou j'ai vraiment un sentiment de satisfaction à l'issue de la réflexion. Mais. C'est pas comparable, exemple.
Mais là on parle de. Mais là on parle pas d'un. Excuse-moi. Là on parle pas d'un problème de mathématiques. Là on va, là on doit s'imaginer, le fait que Akadosh Baruch Hu avait les malachim, avait tout ce qu'il avait besoin et qu'il nous a créé à nous. Et on va dans la deuxième partie du Kriyat Shema, on va nous montrer tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait pour éveiller la Ahavat Hashem, Ve'Ahavat Hashem Elokecha. Donc on parle pas d'un problème mathématique.
Non.
On essaye d'éveiller un sentiment. Alors je dis pas que c'est facile. Admor HaZaken dit Be'umka Deliba Umocha. Ça veut dire qu'il faut faire appel au plus profond du cerveau et du cœur. C'est clair. Mais, d'accord, pourquoi il faut faire appel au plus profond du cerveau et du cœur? Qu'est-ce qu'explique l'Admor HaZaken? Il dit parce que c'est quoi la concentration? La concentration, c'est elle qui va permettre de créer le sentiment. Si je ne réfléchis pas à la chose, si je ne prends pas le temps de réfléchir à la chose, ni je pourrais m'énerver, ni je pourrais aimer, je n'ai pas le temps de penser, je n'ai pas le temps de m'énerver. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de réfléchir à la chose. Alors, explique maintenant, explique l'Admor HaZaken, il dit, quand on réfléchit à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on a un problème particulier. On a un problème particulier encore plus que sur les exemples que je viens de donner. Dans les exemples que je viens de donner, c'est relativement facile. Le fait que quelqu'un m'a embêté, c'est facile de réfléchir au fait qu'il m'a embêté, d'accord, et de me sentir énervé. Quand quelqu'un m'a fait du bien, bon, c'est peut-être un peu plus difficile, mais... C'est relativement facile de réfléchir au fait qu'il m'a amené quelque chose, donc je lui dois quelque chose,
donc je lui en veux.
Donc, non.
Ah si, souvent, c'est ça.
Là, on est dans le cas où,
ouais, d'accord, bon,
dans le cas où je réfléchis en bien. Donc, très bien. C'est quoi le problème qu'on a par rapport à Ahavat Hashem? Le problème qu'on a par rapport à Ahavat Hashem, c'est qu'on ne maîtrise pas Hashem, exactement. On dit que de manière générale, les gens qui ont beaucoup d'imagination vont avoir les sentiments beaucoup plus rapides. Ça veut dire, les gens qui ont de l'imagination, les gens par exemple qui savent bien dessiner ou qui savent bien raconter quelque chose, ils ont beaucoup d'imagination. On dit que ces gens-là, ils ont des sentiments qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Ça veut dire que dès que quelqu'un il a fait un petit truc, lui tout de suite, il a vu la grande image. Ou bien dès que quelqu'un il a fait un peu très sec, tout de suite, lui, il va voir la grande image. Pourquoi? Parce que il a une imagination qui est développée. Le problème, comme te dit Guy, c'est quoi? C'est que par rapport à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à Kadosh Baruch Hu? Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on a un problème, c'est que on a du mal à avoir de l'imagination. D'accord, on a du mal à avoir de l'imagination, et c'est pour ça qu'on dit que la seule technique pour être capable d'arriver à un niveau de Ahavat Hashem, c'est l'Imud HaTorah. C'est le fait d'étudier les sujets qui en parlent dans la Torah. D'accord, d'où l'importance d'étudier avant la Tfila. D'accord, au moins le Shabbat. Ça, c'est l'Admor HaZaken, quand il donne les consignes au Chassidim, il leur demande d'étudier au moins le Shabbat avant la Tfila. Des sujets qui parlent de Gdoulat Hashem, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ah, a priori, ça n'a rien à voir avec la Tfila. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la Tfila? Quel rapport? C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la Tfila. Mais encore une fois, c'est quoi le concept de la concentration? C'est que puisque moi, je ne peux pas me concentrer tout seul, je ne peux pas utiliser mon cerveau tout seul pour me concentrer, puisque ce n'est pas des notions que je maîtrise, la seule possibilité de le faire, c'est de l'étudier tel que c'est écrit dans la Torah. Et quand dans la Torah, je vais étudier le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est grand, on va parler de choses qui parlent autour de la Gdoulat Hashem, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, ça va me donner beaucoup plus de facilité, à étudier, à faire ma tefillah correctement. C'est ce qu'on a dit ce matin dans le cours de Mishnah. On a dit que Chassidim Arishonim, Ayushoim, Sha'a Achat, d'accord, l'Ifna Tfila. On a dit que les premiers chassidim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant la tfila, ils attendaient une heure ou un instant. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette heure-là? Qu'est-ce qu'expliquait Rashi là-bas? Ils réfléchissaient à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors à l'époque, les chassidim de l'époque, ils avaient la possibilité de... Ils venaient à la synagogue le matin, ils se concentraient comme ça, sans rien voir, sans ouvrir de livre, et tout de suite, ça y est, quelques minutes, il leur fallait, ça y est, ils étaient inspirés. Ça, c'était les chassidim de l'époque. D'accord? Mais nous, aujourd'hui, maintenant, on peut pas. On n'a plus ces kochot, on n'a plus cette force-là. Aujourd'hui, tu viens, dès que tu te mets à réfléchir, ça y est, ton esprit va s'évader. Il va partir, ton esprit. Il va partir, tu vas penser aux affaires, tu vas penser à ce qui s'est passé avant que tu es venu. Tu vas penser à des tas de choses, mais tu ne vas pas penser à Kadosh Baruch Hu. La seule technique pour arriver à ça, c'est quoi? L'Imud HaTorah. D'étudier cette chose-là telle qu'elle est dans la Torah. Et on voit clairement, on sent clairement, comment lorsqu'on a étudié avant la tfila, des textes qui parlent de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, peu importe lesquels, mais des textes qui parlent de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de textes dans la Torah. Il y a des catégories de textes comme la halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, ça veut dire qu'on nous montre comment Akadosh Baruch Hu va régir notre vie. Ça, c'est une première catégorie de textes. Mais il y a une deuxième catégorie de textes, ça peut être dans la Gemara, mais ça peut être aussi, c'est surtout dans la Kabbalah, dans lequel on va surtout montrer comment le juif dépend d'Akadosh Baruch Hu, comment tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, dans la halakha en général, tout tourne autour de l'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux pas faire ça? Alors qu'en général, dans la Kabbalah, c'est le contraire. Tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Comment je peux faire plaisir à Dieu? Tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr. Dicté par Dieu, mais c'est lié à ma mitzvah quand même. C'est au fil de la Torah, Chas v'Shalom. C'est pour ça qu'on dit qu'avant la tfila, on donne le privilège à des textes qui parlent de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Puisque grâce à ça, après, on sent clairement comment dans la tfila après, lorsque dans la tfila après, on nous parle des malachim, on parle des choses comme ça, qu'a priori, on n'a pas d'imagination pour ça, qu'est-ce que ça me demande? D'accord? Si avant la tfila, je me suis préparé, j'ai réfléchi à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mon cerveau est plus prêt pour ça, et là, automatiquement, même si la tfila va vite, d'accord? Le fait que, dès que je pense à la chose, tout de suite, ça attrape. D'accord? Faut savoir qu'à l'époque de la Gemara, on nous raconte dans la Gemara Rosh Hashanah, on nous raconte qu'il y avait des gens, il y avait des tzadikim qui priaient qu'une fois par semaine ou une fois par mois. D'accord? Il y en avait même qui priaient une fois par an. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disaient que d'après eux, on peut se mettre à prier seulement lorsqu'on se sent prêt. C'est-à-dire seulement lorsque je me sens prêt, je sens que mon cerveau est prêt, que j'ai une assez bonne concentration. Donc une fois que je suis bien concentré, ça y est, là je prends la tefila, je bats le fer quand il est chaud et c'est bon, on peut aller très loin. Mais quand je ne suis pas concentré à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il ne faisait pas la tefila. C'est comme ça que la Gemara enchaîne dit clairement. Il y avait des tzadikim qui priaient une fois par an. Il y en avait qui priaient une fois par an parce que Torah Tamum Natam, parce qu'ils étaient occupés toute l'année à étudier la Torah. Puisqu'ils s'occupaient toute l'année de la Torah, ils étaient quittes de faire la tefila. Mais il y en avait que c'était même pas pour ça. Il y en avait qu'ils ne priaient pas parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ne se sentaient pas prêts. Or, si on n'est pas prêt, d'accord, si on n'est pas prêt pour faire la tefila, on ne peut pas faire la tefila. Comme il explique Rabbi Chaim de Brisk sur la notion de la tefila de l'Amida, il dit que dans la notion de l'Amida, on a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. C'est que dans les autres mitzvot, même si on n'a pas eu la kavana, la mitzvah est toujours là. Parce que le ikar de la mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est le fait d'avoir fait la mitzvah. Même le Kriyat Shema, l'essentiel du Kriyat Shema, c'est de le lire. Même si on n'a pas eu la kavana, c'est kasher. Mais Rabbi Chaim de Brest, il dit que dans l'Amida, il y a quelque chose de particulier. C'est que si on n'a pas au moins une kavana primaire, d'accord, au moins une kavana primaire, que je me trouve devant Melech Malacha Malachim, devant le roi des rois, je ne suis pas quitte de l'Amida. Ça, il explique ça sur le Rambam. D'accord. Il dit que le Geder, la définition de la Tfila, doit obligatoirement passer par la kavana. Et si je n'ai pas au moins une kavana primaire que je me trouve devant le Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois, je ne suis pas quitte de l'Amida. Ça explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça qu'à l'époque de la Gemara, il y avait des gens qui priaient une fois par année. Et quand on lit l'histoire, on voit qu'au début du chassidisme, pas que dans la chassidoute, on voit aussi qu'il y avait, on voit dans l'histoire, qu'il y avait des gens comme ça qui priaient toute l'année très très rapidement, mais vraiment très rapidement, ça veut dire qu'ils faisaient vraiment le minimum du minimum, faisaient l'amida courte, etc. Et une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois par an, ils faisaient l'amida avec toutes les kavanotes. Et c'est caché. Ce que Shranaouk dit clairement, il dit que celui qui n'a pas l'esprit, celui qui n'arrive pas à se concentrer sur l'amida, il peut faire l'amida courte, ça vinait nous, Hachem Vénérafé. D'accord, l'amida qu'on lit en 5 lignes. Il y avait des gens qui le faisaient. Partout, chez les Chassidim, chez les Lituaniens. Pourquoi dans les dernières générations, on voit clairement que la tendance s'est changée, d'accord, la tendance s'est inversée. On voit que, même si on n'est pas des grands tzadikim, on ne va pas dire qu'on a la kavana à chaque mot de l'amida, pourtant on voit que les gens font tous les matins, midi et soir toute l'amida. Pourquoi ils font ça? D'accord. Exactement. Alors à quoi ça sert? Pourquoi, a priori c'est mieux comme avant. Pourquoi on va aviner nous à Hachem Vénérafé? Alors c'est écrit comme ça, d'accord. Les Farshim expliquent, ils disent que les Chachamim se sont rendus compte que nous aujourd'hui, on n'a pas la même relation avec Akadosh Baruch Hu qu'à l'époque. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Et une fois, quelqu'un qui est venu voir le Rabbi de Kotsk, il a posé la question suivante. Il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi on fait tellement un grand place, un proverbe en yiddish, pourquoi on donne tellement d'importance au Tanakh? Mais le Tanakh, c'est plein de fautes. N'arrête pas d'entendre comment les juifs ils sont révoltés contre Dieu, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On fait pas ça, nous. Pourquoi tu veux que je te dise ça? Il a posé la question comme ça à Rabbi de Kotsk. Rabbi de Kotsk, il a répondu comme ça. Il lui a dit, de leur averot est devenue une Torah. De tes mitzvot, on ne fera pas de Torah. Et il n'expliquait pas. Moi, Rabbi de Kotsk, c'est toujours très concis ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il voulait dire, le Rabbi de Kotsk? Ça veut dire quoi? A priori, il a posé une bonne question. Je ne comprends pas. On ouvre le Tanakh, on voit des gens qui se révoltaient contre Dieu, qui se moquaient de Dieu. C'est Mishmor. Des choses que nous, même pas en pensant, on a envie de les faire. C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. C'est que les gens, à l'époque, même si des fois ils se révoltaient contre Akadosh Baruch Hu, mais ils avaient une relation avec Akadosh Baruch Hu. Peu importe si la relation s'exprimait dans le fait qu'ils servaient Akadosh Baruch Hu, ou dans le fait qu'ils se révoltaient contre Akadosh Baruch Hu. On voit des fois dans le nar, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que bon, dans les yeshivot, on n'étudie pas trop le nar, surtout dans les premières années, parce que des fois, dans le nar, il y a des phrases qui choquent. On voit des fois des gens qui insultent Akadosh Baruch Hu. Des insultes. Mais le fait qu'il insulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ça le dérange. Qu'est-ce qu'il a répondu le Rabbi de Kotz? Il lui a dit, eux, ils avaient une relation avec Akadosh Baruch Hu. Ah, ils ont fait d'Averot. Oui, ils ont fait d'Averot, mais c'était une relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc dans ça, on peut trouver du bien. Nous, quand on fait la tefila tous les jours, matin, midi et soir, même si nous, on fait pas l'Averot qu'ils font, mais est-ce qu'on peut dire que nous, dans notre tefila, on a une relation avec Akadosh Baruch Hu? Comme on n'est pas au niveau de l'époque. Alors c'est pour ça que les Chachamim d'aujourd'hui, ils préconisent qu'on fasse tous les jours, Shacharit Mincha Arvit. D'accord? On fasse Shacharit Mincha Arvit toute la Mida. Pourquoi? En espérant que peut-être une fois, d'accord? Peut-être une fois, une Amida sera la bonne. C'est un peu comme quand on prépare des élèves pour les examens. Comment on fait? On va leur donner toutes, on va leur poser 20 questions à l'examen. D'accord? Mais comment on va les mettre en condition? On va les préparer en leur posant 1000 questions. Pourquoi 1000 questions? On va dire comme ça, si vous allez attendre 1000 questions, certainement que de ces 1000 questions, il y aura un pourcentage de questions que vous retomberez sur les 20 questions que. Enfin, sur une partie des 20 questions sur lesquelles vous devez tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de notre Amida aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, comme on sait que les générations sont faibles. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande de faire la Amida, Shacharit Mincha Arvit, toute la Amida, pour espérer que peut-être au moins une fois on va voir la Kavana sur une bracha. Comme on avait expliqué il y a, je crois que c'était il y a un an, on avait expliqué, chapitre 38, que Kadosh Baruch Hu a une chance particulière, c'est que lorsqu'on a la Kavana sur la bracha Atachonen, par exemple, imaginez-vous demain matin, j'ai une Kavana particulière sur Atachonen. Qu'est-ce qu'on avait expliqué, vous vous rappelez?
Tous les Atachonen étaient pris en
compte. Je vous rappelle ce que vous avez marqué. Tous les Atachonen, d'accord.
Pas
mal. Ah,
il faut pas faire d'impasse. Il faut pas faire d'impasse.
Voilà. À l'époque, ils faisaient comme ça, parce qu'à l'époque, ils maîtrisaient leur esprit. C'est-à-dire, ils étaient capables de te dire, aujourd'hui, je me sens pas, mais dans une semaine, une fois que les affaires, ça ira mieux, je pourrai prier comme il faut. Donc pendant une semaine, ils faisaient l'amida courte. Et une semaine plus tard, ils faisaient une amida béton armé. Nous, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passera dans un an, ni dans deux ans, ni dans deux jours. Je ne sais pas. Et comme je ne sais pas ce qui se passe, d'accord, on se dit, bon, tous les jours, tu fais toute la mida.
Pourquoi?
C'est pas la quantité, c'est la qualité le problème ici.
Mais oui, mais là, on dit, bon, bah, puisqu'on n'a pas la qualité, alors on met la quantité, comme ça, peut-être qu'un tout pourcentage de quantité qu'on met, on aura peut-être un petit peu.
Oui.
Alors pourquoi on ne fait pas comme il y a un petit pour, 5 filets dans la journée?
Ça suffit pas déjà 30 filets par jour.
Moi, je dirais au contraire, voilà. Pourquoi on ne fait pas plus écourté? Au moins, tu peux mettre un peu.
Non, justement, c'est ça qui s'est rendu compte à Khamim. Khamim s'est rendu compte que court ou long, de toutes les façons.
Oui, mais c'est plus facile de se concentrer sur 5.
Ça veut dire quoi se concentrer? C'est ça la question.
Avoir une kavana sur...
Mais c'est quoi se concentrer? Je vois les gens aujourd'hui, ils pensent que kavana, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire comprendre la traduction des mots.
Ouais.
D'accord? C'est pas ça kavana.
C'est plus la kavana si tu comprends. D'accord,
mais attendez, excusez-moi, je vais expliquer ce que je veux dire. Imaginez-vous, j'ai donné cet exemple il y a un an et demi, imaginez-vous que vous êtes en train de lire un poème en français. Est-ce que tu comprends la traduction du poème? Tu écoutes une chanson en français. Tu comprends les mots, oui. Est-ce que pour autant, c'est quand la dernière fois que quand tu écoutais la chanson, tu as fait attention, tu as fait attention aux mots de la chanson. Et tu as réfléchi à chaque mot de la chanson. C'est pas parce que tu comprends la traduction des mots que tu vas faire attention à chaque mot. C'est pas ça la kavana.
Si quand même, si tu écoutes un texte dans une langue que tu comprends pas,
oui.
Tu vas aimer la musique.
Oui, mais c'est pas de la kavana. C'est pas de la kavana. C'est pas ça la kavana. C'est pas ça la concentration. Kavana, c'est pas comprendre la traduction des mots. C'est pas lire un poème et comprendre la traduction. C'est pas ça kavana. Kavana, c'est concentration. Ça veut dire vivre le moment.
Justement. D'accord. Quand tu comprends ce qu'il dit, tu vis plus le moment.
Quand tu as plus de facilité pour vivre le moment.
Bien sûr.
Mais la kavana, ça ne veut pas dire traduction des mots.
Mais j'ai pas dit ça, mais je dis que c'est facile vivre, quand tu comprends les mots.
À comprendre l'impact, quoi.
Oui. Essayer de vivre le moment. Ça veut dire réfléchir, essayer de se sentir concerné par l'âge. C'est très dur. C'est presque impossible. La Noura Zaken dit clairement. Kacher, Yassim, Amaskil, Eleat Varim, Elunka Deliba. Lorsque celui qui sait réfléchir, donc on parle de quelqu'un qui sait réfléchir, hein, il va réussir à mettre ces choses-là au plus profond de son cœur et de son esprit. Ah mais non, il te prévient, il te dit, c'est pas facile. Je te préviens, ne crois pas que c'est facile. C'est pas facile. Je vous dis, à l'époque, Jed Morazaken, il y avait des gens, d'accord, il y avait des gens qui, c'était fréquent, hein, il y avait des gens comme ça qui faisaient toute la semaine la Amida courte, comme ça, et Shabbat, ils faisaient la longue Amida. Par exemple, on sait que la Gemara Zaken...
Elle était plus courte,
c'est bon. Ah, bien sûr, Avinenu Hashem.
Non, Shabbat. La Shabbat est plus courte.
Ah, oui, d'accord.
Même vitesse, tout ça.
On sait que, par exemple, la Gemara Zaken a donné des consignes particulières pour ceux qui montent au Hamoud. À l'époque, encore une fois, c'était, hein, pour ceux qui montent, pour ceux qui vont à Shler Tivour, il a donné les consignes suivantes. Il a dit que celui qui monte au Hamoud, la tefila doit durer au minimum 1h30. Ça, il a dit. Il doit durer au minimum 1h30. Et que si quelqu'un est pressé parce qu'il doit aller faire des affaires, qu'il ne monte pas au Hamoud, et s'il monte au Hamoud, d'accord, c'est-à-dire s'il va monter faire la tefila, donc s'il va faire, il va être Razan alors que je lui demandais de ne pas être, lorsqu'il viendra ici à Liozna, donc la ville où habitait la Morazakan, pour écouter de la Chassidoute, on le renverra d'ici. Et il respectait. Et même ceux qui pouvaient pas, attendez, c'est pas fini, même ceux qui pouvaient pas dans la semaine, parce que bon, ils devaient travailler, ils leur demandent, le Shabbat, de prendre plus de temps pour faire une meilleure tfila. C'est quoi plus de temps pour prendre une meilleure tfila? Ils leur demandent d'étudier avant la tfila, d'accord, et que la tfila du Shabbat doit être plus longue que la tfila de la semaine. Alors nous, quand on voit ça, on se dit, mais attends, on est très très loin de tout ça. C'est vrai qu'on est très très loin de tout ça.
Mais,
oui, mais ça veut dire qu'on la lit plus longuement, plus lentement, prend plus de temps pour vivre.
Non, elle est plus longue.
C'est pour ça qu'il leur a demandé. Hein.
Avec plus de concentration.
Ça. Et c'est pour ça qu'il y avait des... Il y avait des... On dit que dans le Beit HaMidrash de Moraz HaKahen, des fois on finissait... D'abord, ils commençaient très très tôt. On dit qu'en général, c'est eux qui réveillaient le matin. Comme le roi David dit. Ça veut dire depuis...
Très... Les élèves ont changé par rapport aux
mêmes. Non, bon, Hachem, les élèves sont là à 9h du matin, tous les Shabbat de matin.
Il lève le matin, il lève le jour.
Non, il lève le jour, non. Pourquoi ? Il y en a d'autres qui lèvent le jour ?
En hiver, on lève le jour.
Je vais expliquer, c'est des choses qui étaient à l'époque. Quand à l'époque, on voyait clairement comment les gens étaient très extrêmes. C'était soit ils vivaient la chose à fond, soit ils ne vivaient pas du tout. Aujourd'hui, on est toujours dans un grand flou. On ne peut pas dire qu'on ne vit pas du tout la Amida. On essaie de comprendre la traduction, donc on est un peu dedans. Mais c'est très difficile de dire qu'on a une relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le rabbi de Kotsk a répondu. Alors, il a dit, de l'or à Vérot à eux, on a fait une Torah. De tes mitzvot, on ne fera pas de Torah. Ça, il a répondu. J'aurais pas à mettre à sa place.
Il a dit, tiens, Charlot, j'ai Charlot, j'ai répondu.
J'aurais pas à mettre à sa place.
Le rabbi de Kotsk, c'est quoi? C'est un... Non,
c'est un dur.
Ça veut dire, hein. C'est un dur.
Ah, c'est un très très dur. C'est l'ancêtre des chassidim de Gour. Les Gour, ils sont connus pour être très 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 vifs comme ça.
L'intérêt de la Kavana, c'est de ressentir. C'est tout.
L'intérêt de la Kavana... Non. Ah, bonne question. Très bonne question. Bonne question. Toi, tu poses la question, tu dis, c'est quoi l'intérêt de la Kavana?
Hormis la Halakha.
Très bien.
Tu as dit le bon moyen d'avoir éventuellement une bonne Kavana, à mesure que la Tfila rapidement, c'est faire du Zohar.
Non, c'est de réfléchir. De réfléchir. Non, peu importe les textes.
Mais lesquels?
On a toutes sortes de textes. Tous les textes de Chassidou, de Moussar, ça parle principalement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On parle de la liaison.
Des choses sur comment il faut se comporter.
Non, je parle pas du Moussar qui parle du comportement de l'homme. Je parle du Moussar qui parle de comment l'homme doit se sentir petit face à Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu est infini, etc. Il y a du Moussar qui parle de ça.
Oui.
Rav Dessler, il parle un peu de ça. Bon.
Oui, mais tu reboucles après.
Ah, je sais. C'est ça, il faut se focaliser.
C'est pour ça que vous...
C'est Rachid qui dit, hein. Rachid, on l'a appris ce matin.
Rachid doute, c'est bon.
Moi, je vous me demandais à moi, Rachid doute, mais c'est pour ça que
Rachid doute.
Rachid, on l'a étudié ce matin. Rachid dit clairement, d'accord, on a Gemara Brachot, 6e chapitre.
Pendant des siècles ou des décennies, le moussard, c'était pas un truc qui était préconisé.
Pas du tout. Ni le moussard, ni la chassidoute, ni rien du tout. Mais encore une fois.
Et alors,
parce que qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit que
chassidim
n'arrive pas du tout. Encore une fois. La Gemara, elle dit que chassidim arrive chez nous, mayushoim shahat. Que pour eux, ils n'avaient pas besoin d'étudier quoi que ce soit. Il leur suffisait pour eux de s'arrêter un instant, d'accord, et de se concentrer comme ça. Vous voyez des gens comme ça, ils arrivent à la synagogue, ils restent là, ils restent 20 secondes comme ça, et après c'est bon, il est parti. C'est bon, le moteur, il est démarré. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire ça. Je n'arrive pas. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous concentrer sur une chose pendant une minute? Prends un texte comme ça, tu dis voilà, sans texte, tu arrives comme ça, une minute, tu te concentres. C'est très dur. 5 minutes, t'as plus forte raison. 1 heure, shahara, t'as plus forte raison, c'est très très dur.
Ça, c'est comme
aujourd'hui.
Les acteurs de cinéma, c'est comme ça.
Comment ils
font? Il y en a, avant de tourner une scène, ils sont prêts en 2 secondes. Et il y en a, il leur faut 1 heure pour s'imprégner, etc.
Mais comment ils font pour se préparer? Ils vident leur esprit?
Hein?
C'est deux écoles. C'est l'école russe et l'école américaine.
Je sais pas si c'est les
écoles américaines,
c'est des gens qui sont différents.
L'école américaine, elle est comment?
C'est des gens différents.
Tchac,
Ils te disent que tu t'habilles d'une certaine manière et l'extérieur va influer à l'intérieur. Alors que le col russe, c'est l'inverse. Tu intègres le personnage et après, ça va ressortir.
D'accord, mais en France, tu as des acteurs qui sont ni russes ni américains. Ouais, ils ont des attitudes différentes, ça dépend des personnes.
Et là, qu'est-ce qu'on dit là, là maintenant, c'est la méthode russe ou la méthode américaine?
Laquelle?
Ce qu'on est en train de dire ici.
Bah, j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression qu'on boucle là, parce qu'on était, si on revient sur l'esclave, le Rani qui était pris par le. On avait dit à un moment donné, il va avoir un sentiment de gratitude, mais ce sentiment de gratitude, il va être limité parce que. Il va pas comprendre ce qu'est le roi.
Bien. Bien sûr,
donc on a dit comment comprendre le roi, alors on va pas. Puisque Akadash Baruchou est illimité, donc on va simplement comprendre les relations avec les différents mondes. Tu te souviens?
Bien sûr, c'est
important. Et on s'est dit, bon, comme l'eau reflète le visage ici, etc., etc., on s'est dit, bon, mais très bien. Donc en comprenant la descente d'Akadash Baruchou, les différents niveaux. Alors on va avoir un sentiment naturel de gratitude.
Donc c'est la méthode russe.
Et on revient, oui c'est la méthode russe. Ouais. Et on revient après, on dit comment on fait pour faire la Hamida. Bon, on a déjà répondu à ça.
Oui, c'est la suite ça. Pardon.
C'est la méthode américaine.
Sans compter, si je veux revenir sur sa question, sans compter qu'on avait vu il y a...
Là ce qu'on veut expliquer c'est que la méthode russe elle a marché une fois sur 100.
Bah, on a vu
ta question, t'as compris ce que je veux dire?
Oui.
On a vu il y a un an que... Que je trouve, le gros problème, c'était...
Il y a un an.
À peu près, ouais. C'était de passer...
À quelle époque?
On a vu que le gros problème, c'était
le... Il a toujours balancé, donc tu peux pas vérifier.
Lui, il peut vérifier.
On dit que...
Bon, d'accord, il va te dire...
J'ai entendu un cours du rabbin Citruc, vas-y, balance.
Il commence à connaître tous les coups, hein.
Non.
Alors, il y a un an.
On a dit que le problème, c'était le coup.
Le coup.
C'est-à-dire, c'était passer de Rochma bin Hadad à passer aux lèvres, au cœur. Et que justement là il y avait un retrissement au niveau du cou,
oui.
Et que c'était ça le
coup,
et que les gens, si vous voulez, ils n'arrivaient pas, si tu veux, à ressentir l'amour d'Hachem envers les autres, etc.
Oui, sûr, hein.
Pourtant c'est des gens qui étudiaient, et on voit dans la vie de tous les jours des gens qui étudient, mais qui sont froids, et on voit l'inverse, on voit des gens qui étudient pas, et au contraire sont généreux, etc.
Donc tu veux dire quoi par là?
Bon, on a dit que c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que
personne n'a dit que c'est simple, non mais... Ce qui veut te dire ici, c'est que la seule technique, la seule possibilité, puisque c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, si tu demandes à quelqu'un qui sait dessiner, quelqu'un qui a de l'imagination, c'est-à-dire si tu lui parles d'une situation, il est capable de te faire une peinture, avec les détails, etc. Tu lui demandes de te représenter une situation, tu dis voilà, tu lui parles de quelque chose, il est capable de s'imaginer, il n'y a pas de problème. Il va te créer un sentiment, il va t'imaginer ce que tu veux. Mais là, on parle de quelque chose qui est abstrait, d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est impossible.
Comment on fait avec le coup?
D'accord.
Alors
justement, la seule manière, c'est l'imoud à Torah. Ah maintenant, tu as posé une très bonne question, justement. Voilà, deux secondes. Donc, on a deux. Premièrement, à quoi sert la kavana? On a dit que la kavana sert à arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est un but en soi? C'est ça ta question?
Oui.
Voilà. Ou bien, est-ce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est un but en soi? Ou bien, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi pour arriver à encore autre chose?
C'est un moyen.
C'est ça ta question?
Oui.
Ça, très bien, on va en parler.
Oui.
Je ne sais pas si je m'en parle aujourd'hui, mais on va en parler.
Dans un an à peu près, à chaque fois.
Ah, c'est où aujourd'hui, ou à la fin de ce cours, ou au début du cours prochain. Il pose ta question, exactement ta question.
Quel est l'intérêt de la kavana?
Non, l'intérêt de la kavana, on a expliqué. L'intérêt de la kavana, c'est d'essayer, au moins une fois sur 100, d'avoir un semblant, enfin, de sentiment d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Alors, essayez, une fois que j'ai l'amour en Akadosh Baruch Hu, ça y est, j'ai tout gagné. C'est bon? On va voir.
Attends, c'est l'union, le but. C'est
ça y est, le but, c'est bon, c'est ça le but, ça y est. Une fois que j'ai l'amour à Kadosh Baruch Hu, ça y est, c'est bon.
Non, c'est l'union.
Donc c'est bon, ça y est.
C'est l'union.
Je regarde la nature.
Mais
et
comment,
je communie avec
mais comment on a fait le lien entre le schéma et la tefila? Je comprends pas. On était au schéma, très bien. L'unité, etc. On est passé à la tefila, pourquoi?
Bonne question.
Et pourquoi le schéma, il est avant la tefila?
Pas encore avant la mida, on est au schéma.
Non, c'était à la mida tout à l'heure.
Non, je crois qu'on voit la mida là. Si, j'ai un exemple d'amida.
Il a droit.
Marabou Masecha Hachem, bien sûr. Exactement.
Non,
pas ça,
c'est dire qu'il y a d'autres.
On dit au contraire, on dit que le Baal Shem Tov, lorsqu'il était en manque d'inspiration, d'accord, il sortait, il allait dans la nature, il allait faire cette fila dans la nature, dans la forêt. D'accord. Ah, vous allez me dire à cause de ça, il priait pas en minyan.
Ça.
Alors comment c'est possible?
Il priait honnête.
Non, il priait pas en minyan.
Honnête.
Il partait pendant plusieurs jours, il priait pas en minyan. Alors quoi? Pour la kavana, il priait pas en minyan? Ça, c'est expliqué Rabbi Chaim de Brusque. Rabbi Chaim de Brusque dit que sur la tfila, hein, c'est quelque chose de spécial qu'on retrouve dans aucune autre mitzvah. Que si on n'a pas la kavana, d'accord, on n'est pas quitte de la mitzvah. Et c'est pour ça que Maïmonide dit Beferou, je dis clairement que si quelqu'un il sent qu'il n'arrive pas à avoir la kavana à la synagogue, qu'il ne fasse pas la tfila à la synagogue. C'est mieux qu'il fasse chez lui.
Alors
il
faudrait savoir.
D'accord.
Deux secondes. Tu peux t'acquitter aussi de...
Si, mais attention, non, il faut être sûr que ta kavana, c'est... Alors, dans les faits, pas tout le monde est d'accord avec Maïmonide. Pas tout le monde d'accord. Il y en a qui disent que, et j'ai dit qu'ils pensent que bon, quand même, il faut prier en minyan. Alors je sais que ça, c'est quelque chose que le rabbi dit toujours, il disait que celui qui sait qu'il a du mal. Et des fois, des gens, quand il y a du monde autour d'eux, ils n'arrivent pas à prier avec Kavana. Ils arrivent à prier beaucoup mieux lorsqu'ils sont dans une pièce, tout seul, il a le temps qu'il veut, il n'y a rien qui va le déranger, il n'y a rien autour de lui, il n'y a personne qui va le déranger, il a prié tranquillement. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Alors en général, la solution qui est donnée dans les poskim, c'est de faire une fois comme ci, une fois comme ça. Parce que c'est machloquette. C'est machloquette qui n'a pas été résolue. Est-ce que la Kavana est plus importante ou est-ce que le minyan est plus important ? C'est relativement difficile de prier avec Kavana quand on est en minyan. Il y a du monde autour, il y a des, choses qui, il y a des gens qui ouvrent la porte, qui rentrent, qui sortent, qui passent, etc. Il y a beaucoup de choses qui psychologiquement ils déconcentrent. Donc on peut faire les deux. Non, les mots. Bon, on n'a pas fait beaucoup de mots aujourd'hui. Alors.
Veine.
Veine Kacher.
Veine. Kacher, donc on reprend en bas de la page 138, Veine. Kacher, Yassim, Amaskil. Elle est Advari Melunka Deliba ou Mocha. Lorsque celui qui va réfléchir à ces choses-là, il va essayer d'intégrer ça au plus profond de son cœur et de son esprit. Aza, à ce moment-là, mais Meila, automatiquement, si je vais réussir à intégrer et à me concentrer sincèrement, de manière à ce que je vis la chose, Aza, automatiquement, mais Meila, Kamaï, ma panim, le panim, quitte la et, nafcho, vezit la bech, beruach, nediva. Automatiquement, la grande question qu'on a posée, tu m'as dit que normalement, qu'est-ce qu'on demande dans le schéma ? Bechol levavra, bechol nafshecha ou bechol meodecha, ça veut dire qu'un juif a la possibilité de donner toute sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et de dire que même le mitzvot qu'il fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu, même le fait qu'il se marie, c'est pour Akadosh Baruch Hu, même le fait qu'il mange, c'est pour Akadosh Baruch Hu. On a dit, mais c'est pas possible ? C'est pas possible ? Normalement, un homme, un animal, tout ce qu'il vit, d'accord ? Et quelqu'un autour de l'ego, qu'est-ce que tu me dis ? Non, l'ego, on oublie entièrement, c'est pas possible. C'est quoi la technique du Ladmor Zaken ? Lorsqu'on va réussir au moins une fois sur 100 à faire une bonne tfila, essayez, vous allez voir. Un jour, vous faites une bonne tfila. Vous allez voir qu'après la tfila, d'accord ? Vous allez passer devant un magasin, devant un magasin où il y a des... Je sais pas, vous allez passer devant un magasin où on vous vend des sucreries ou...
Non, des Cartier ou des Rolex.
On va parler de nourriture. D'accord ? Ça te dit rien ! T'en as rien à faire. Pourquoi t'en as rien à faire ? Parce que là, ça veut dire que tu as éprouvé un vrai sentiment de Ahavat Hashem. Chez Chassidim, on dit que quand on fait un bon Famringen, on peut avoir ce sentiment aussi après un Famringen.
Parce que t'as plus faim aussi, en même temps.
Pas du tout. Pas du tout.
Non,
c'est pas lié à la boisson. C'est pas lié à la boisson. C'est que quand la personne arrête de penser au Gashmi, d'accord ? À ce moment-là, on peut avoir le sentiment qu'à ce moment-là, le matériel ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
Parce qu'à la limite, tu vas manger, tu as faim, d'accord ? Ton corps a faim. Si tu vas manger, tu vas pas manger pour kiffer la tina. Tu vas manger parce que ta femme a fait un repas et
faut faire
plaisir à ta femme.
Donc faire plaisir à Dieu.
Et puis quand c'est pas bon, c'est ça, vous que tu me
fais. Attends, en même temps...
Essayez, vous allez voir, c'est accessible.
Oui. D'accord.
Je parle en connaissance de cause.
Je connais pas la tina de ta femme, je peux te dire.
Donc il dit comme ça, il dit, Mimei là automatiquement, Kamaï, m'a panim le panim, titla, het nafsho. Si je vais réussir, au moins une fois sur 100, mais au moins je vais réussir cette fois-ci, à intégrer, avoir une vraie kavana, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Titla, het nafsho, automatiquement mon âme va s'enflammer, mais titla, bech, beruach, nediva. Et automatiquement je vais être inspiré, leit nadev, vela azov, kol asherlo mineged. Et automatiquement, à ce moment-là, dès qu'on pose la question, on me dit, est-ce que tu veux une Rolex, est-ce que tu veux un iPhone, je ne sais pas ce que tu as dit comme exemple encore, d'accord, ou ce que vous voulez,
non.
Ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, la seule chose qui m'intéresse, après qu'on a passé une bonne tfila, la seule chose qui m'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux faire une mitzvah, est-ce que je peux m'attacher un peu plus à Akadosh Baruch Hu. Veli Kalel, Be'oro. Il dit comme ça. Il dit qu'à ce moment-là, une fois que j'ai fait une bonne fila, ça peut nous arriver. D'accord, on le sent par exemple, on peut choisir des fois, même peut-être Rosh Hashanah ou Kippour ou d'autres moments comme ça, quand on a fait une bonne fila, on a vécu une bonne fila.
Ouais.
D'accord. Après la fila, on sent que quand on sort dehors et on voit les voitures, on voit beaucoup de choses autour de nous, on sent qu'on est un autre monde. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas ? Si on a fait une bonne fila, pourquoi ça ne nous intéresse pas ? Parce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on a eu réellement une Ahavat Hashem. Et quand on a une Ahavat Hashem, à ce moment-là, rien ne m'intéresse. C'est ça ce qu'on dit. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a dû faire abstraction de soi. Comment on fait abstraction de soi? Grâce à quoi on peut arriver à ça? Grâce à la tfila précédée du limud à Torah. Maintenant, on va arriver à la question de Guy. Ah, d'accord. Maintenant, on va arriver à la question de Guy. Question de Guy qui a posé. C'est quoi ta question, Guy? Répète ta question.
Quelle
heure est-il? Une question d'abord, oui.
Je pose la question.
Il
y a un sipouk important sur quelque chose,
oui.
Il y a forcément un sentiment de sabaout sur les autres.
De
sabaout. On est sabéa. Il y a un sipouk sur quelque chose d'important. Quelle que soit cette chose importante, il y a automatiquement une sorte d'inhibition qui se propage sur le reste.
C'est
sur
ça.
Une distance plus ou moins grande, ou sur des contacts plus ou moins grands. C'est un phénomène qui est... L'esprit a été occupé par une satisfaction importante.
Mais qui a dit que une satisfaction?
La
Avat Hashem, j'ai compris la question. La Avat Hashem, c'est pas du tout, la Tfila, c'est pas du tout un sipouk. La Tfila, c'est un sentiment de soif. Plus on avance dans la Tfila, plus on a soif envers Akadosh Baruch Hu.
Non, si quelqu'un considère qu'il a besoin de demander quelque chose à Akadosh Baruch Hu, et donc il a confiance, il croit en Dieu, tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il a senti que cette Tfila, elle était forte, et donc il a le sentiment que cette fois-ci, il a peut-être porté sa prière beaucoup plus haut que d'habitude, ou beaucoup proche de Dieu que d'habitude, c'est par une hauteur, c'est une profondeur. C'est un sipouk qu'il a.
Le Zohar, il explique.
Il éteint les autres besoins qu'il y a autour.
Le Zohar, il explique, j'ai compris.
Vous pourrez imaginer que dans un autre registre, quelqu'un qui a eu un sipouk dans tel ou tel domaine, eh ben, ça calme pendant un certain temps les envies qu'il pourrait avoir autour.
On en a parlé ce matin. Hein. Le Zohar, il explique que ça, c'est une tfila de très bas niveau. Ça veut dire le Zohar, il dit que cette fille-là comme ça.
Tu dis que c'était un chien qui parlait comme ça.
Bon. Qu'est-ce qu'a dit le Zohar? Je l'ai dit ce matin. Qu'est-ce qu'a dit le Zohar?
Non, mais c'est pas moi qui dis ça. C'est pas ça qu'il dit.
Attends, attendez, finir. Non, mais deux secondes, je peux finir. Le Zohar, il dit que quand je fais une fille-là.
C'est Julien qui dit.
D'accord.
C'est le Zohar. C'est les mots du Zohar.
Quand je fais la tfila, et que pour moi, dans le pshat de la tfila a priori, je suis en train de demander une demande personnelle à Kadosh Baruch Hu. Donc imaginons que je serais parti voir un président ou un roi. D'accord. Il y a des jours où je sens qu'il m'a pas écouté aujourd'hui, il était ailleurs, ou moi j'étais ailleurs, ou j'ai mal formulé ma demande. Il y a un jour dans lequel je suis venu et aujourd'hui je sens que j'ai bien formulé ma demande. Aujourd'hui j'ai bien parlé comme un bon avocat. Je me sens bien après, je dis, j'ai bien parlé aujourd'hui. Ça, le Zohar nous dit, ça c'est le bas niveau qu'il y a dans la tfila. Mais le Icar de la tfila explique le Zohar, le côté principal qu'il y a dans la tfila, c'est pas ça. Le côté principal dans la tfila, c'est le fait qu'un juif il montre à Kadosh Baruch Hu, et un juif il cherche à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il cherche à se sentir de plus en plus petit à Kadosh Baruch Hu. Et même lorsqu'il va demander des demandes personnelles dans la Mida à Kadosh Baruch Hu, il ne demande pas une demande personnelle à Kadosh Baruch Hu. Il dit, puisque je m'attache à Kadosh Baruch Hu à toi, donc toi, Kadosh Baruch Hu, pour te servir, j'ai besoin de ça. Ça change tout. Ce n'est pas que j'ai plaidé la cause, je sens aujourd'hui que j'ai plaidé une bonne cause. Non. Le Zohar nous dit que le Icar de la Tfila, c'est dans chaque bracha, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, ça veut dire que je dois réaliser à chaque fois que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que je dois me chercher à me sentir encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit face à Akadosh Baruch Hu. Le Zohar nous dit, Biferouch, dit que le Icar de la Amida, c'est de se sentir petit face à Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Amida ne peut pas amener, et justement on dit, c'est ça la différence entre les Tzadikim et les Baalei Tshuva, c'est que les Tzadikim, eux, ils peuvent avoir quelque part une sensation de sipouk. Peut avoir une sensation de, comment vous avez traduit ce sipouk, de satisfaction, d'avoir achevé quelque chose. On dit que pour 99,9% des gens qui ne sont pas des tzadikim ne peuvent pas avoir ce sentiment. Pourquoi? Parce que plus ils avancent dans l'amida, et plus ils se sentent petits face à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas que je me sens bien aujourd'hui, j'ai bien parlé face à Kadosh Baruch Hu. Non. Plus j'avance dans l'amida, et plus je vois qu'il n'y a pas de « j'ai ». Il n'y a pas de « je », je n'existe pas. Je ne vaux rien face à Kadosh Baruch Hu. Qui je suis pour demander à Kadosh Baruch Hu? Qui je suis pour que Dieu m'écoute? Qui je suis pour comprendre le chemin d'Akadosh Baruch Hu? Je ne suis rien du tout. Ça, le Zohar nous dit, c'est le haut niveau de la Amida vers lequel on devrait aspirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce qu'il veut expliquer ici, l'Admor HaZaken, c'est que le but de la Tfila, d'accord? Le but de la Tfila, c'est quoi? On attend à ce que l'homme s'annule face à Kadosh Baruch Hu. Tfila, c'est Milashon Utkashrut, à Tofel Klicheres. Ça veut dire qu'on attend que l'homme s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken dit que lorsque quelqu'un a fait une bonne tfila, même s'il a fait rapidement, mais lorsque pendant la tfila, il s'est concentré sur le fait que je suis rien face à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, puisqu'il se sentit petit, dès qu'il sort après de la synagogue, qu'il va voir toutes les autres choses du monde qui tournent autour de son ego, de son existence, ça n'intéresse plus. Il y a une phase de transition pour retomber dans le monde. pour retomber dans le monde. Et la Gemara Zakkaï, on l'avait expliqué dans Perek Yudbet, dans chapitre 12, il dit que si le Benoni a fait une très bonne tfila, il peut espérer que d'une tfila à l'autre, cette sensation, elle reste. Et que jusqu'à l'autre tfila, il est dans le coltin. Il est ailleurs.
D'accord. Et s'annuler et s'attacher, c'est la même chose ?
Bien sûr. Il cherche à s'attacher, mais il cherche à s'attacher. Pour s'attacher, il comprend à chaque fois, plus il avance, plus il comprend qu'il n'est rien.
Parce que pour l'instant, on fait le schéma, donc on s'annule.
Oui.
Et après, on arrive à la tfila, donc on s'attache.
Il s'attache encore plus. Alors, justement, c'est pour ça que la question de Guy est très importante. Répète ta question.
Guy.
C'est quoi ta question ?
J'ai perçu la grandeur.
Franchement, tu te souviens ?
C'est quoi ta question ? Tu as dit, bon, alors, tout le but jusqu'au Kriyat Shema, c'est d'essayer donc de comprendre que je dois donner mon ego à Kadosh Baruch Hu. Je dois me sentir encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit. Jusqu'à la fin, il faut que je me sente rien du tout. À tel point que j'ai honte de demander à Kadosh Baruch Hu. J'ai honte de demander. C'est pour ça que le Zohar, il dit que celui qui demande à Kadosh Baruch Hu et qu'à la fin de la Midah, vous savez, dit le Zohar, il a encore l'impression de dire que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Il dit, c'est comme un chien hein, qui demande hav hav, qui dit donne-moi, donne-moi. Pourquoi il dit ça le Zohar hein. Parce que le Zohar nous dit que le haut niveau de l'Amida, hein, on doit essayer de... Ça c'est accessible à tout le monde. On doit essayer, le niveau qu'on doit essayer d'arriver à l'Amida, c'est qu'on doit essayer à chaque fois, plus on avance dans l'Amida, et plus on doit se sentir petit. Et plus on doit se dire, qui je suis pour demander à Kadosh Baruch Hu de donner la parnassa ? Qui je suis pour demander... C'est pour ça qu'il explique le Zohar. Le Zohar, il dit que... Le Zohar, il dit que... C'est ça ce qu'il dit le Zohar.
La tfila, donc, elle n'est pas pour les gens qui font du Zohar. C'est tout. Ça n'a pas de sens. Parce que toute la tfila, elle est basée sur ces demandes.
En plus, il y a des moments. Et en plus, il y a des moments dans la Amida.
Demander, c'est à côté de la plaque.
Non. Demander. Non, encore une fois.
C'est tout le monde, c'est nous.
Encore une fois.
Et même il y a des moments dans l'Amida où on doit, où on peut dire, les besoins, nos besoins.
Non, encore une fois, je vais expliquer. Je crois que ça peut, on n'a pas mis. Encore une fois. Ce que le Zohar il dit, c'est comme ça. Le Zohar ne peut pas aller contre le pshat de l'Amida. Le sens simple de l'Amida, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu Mashiach, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu la Parnassa, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu qui écarte nos ennemis de notre chemin, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu la connaissance, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu la santé. Donc a priori tout ça, c'est les demandes personnelles. Donc comment le Zohar il peut venir et dire le contraire le Zohar peut venir et dire le contraire? La réponse est là, je l'ai expliqué, enfin je l'ai pas dit assez clairement. C'est que le Zohar nous dit, c'est que dans quel cadre je dois demander à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que je demande à Kadosh Baruch Hu.
C'est
je
pas dis, pour moi.
À Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non. Le Zohar nous explique que dans la Amida, on doit essayer à chaque fois, plus on avance dans la Amida, plus on doit se sentir petit face à Kadosh Baruch Hu, de manière à ce que lorsque je demande à Kadosh Baruch Hu quelque chose, c'est pas pour moi. C'est pour que le plan d'Akadosh Baruch Hu s'accomplisse.
C'est pour le servir.
C'est un petit peu, al-derech, comme le niveau de Merkava que les patriarches avaient. Sauf que les patriarches, ils avaient ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute leur vie. Nous, si on l'a une fois sur 100, c'est pas mal. C'est-à-dire, si à Rosh Hashanah, j'arrive à avoir ce niveau, je dis, écoute, Akadosh Baruch Hu. De toutes les façons, moi, j'ai besoin de rien. Moi, tu sais, moi ma vie, je vis pour toi. Moi, de toutes les façons, ma vie, elle ne me sert à rien. D'accord ? Si j'arrive à un niveau comme ça, que les dofkaboy dvarech, que je m'attache à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Zohar à ce moment-là, c'est plus une demande personnelle que je demande à Kadosh Baruch Hu. Ouais. C'est une demande dans le cadre du plan d'Akadosh Baruch Hu.
Je suis dans le cadre du plan d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui nous donne tout seul, je suis dans son plan à lui.
Non.
En général, qu'on lui demande, si on veut être un truc plus que ce qu'on a ou ce qu'on mérite.
Bonne question, la Gemara Brocha pose cette question. Elle dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la différence entre Israël et les amis chez les nations, on voit qu'ils n'ont pas besoin de faire des filas. Chez Israël, on voit qu'on a l'impression qu'il y a un jeu. Que des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des xérotes, on fait la tila et tac, ça appartient.
Il aime bien nos prières.
Pourquoi ? Mais pourquoi il fait ça ?
Amen.
Parce qu'il nous éprouve.
D'accord. Pourquoi ? C'est quoi le pshat ? Pourquoi il fait ça, Kadosh Baruch Hu ?
Pour établir le lien.
Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi, il aime nos prières ? Qu'est-ce qu'il aime dans nos prières ? C'est parce que c'est le seul moyen pour nous de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'attache à lui, qu'on s'annule à lui. On va dire un petit peu dans les mots, vous allez bien comprendre. Alors, répète ta question maintenant, Guillaume. Répète ta question. C'est quoi ta question, t'as dit, le but de la tefila, on a dit, c'est quoi hein? C'est de se sentir petit face à Kadosh Baruch Hu pour arriver à un sentiment d'amour face à Kadosh Baruch Hu. Ok, et après, c'est ta question, oui. Alors, et après, j'aime à Kadosh Baruch Hu, alors, et quoi? Et là, ça y est, ça s'arrête là. C'est comme tu dis, il y a un mariage, voilà, tu dois tout faire pour aimer ta femme. Et après quoi?
Après, tu fais les mitzvot après.
C'est vrai que tu peux les mitzvot. Mais les mitzvot, sans... c'est quoi le but?
Tu peux les mêmes faire ça.
C'est quoi le but? Arrête, tu peux expliquer dans les mots. Ah,
tu peux faire les mitzvot. Tu n'as pas besoin de...
Tu ne parles pas pour les autres.
À part si c'est une mitzvah de la Torah.
Exactement. Alors, c'est quoi, alors justement, c'est quoi le but?
C'est une mitzvah de la Torah.
C'est une mitzvah de BBA, va.
D'où tu vois? C'est une mitzvah de la Torah, on est obligé de faire ça.
Ah, R.I. Dabku Drucha Berucha. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que lorsque quelqu'un a fait une bonne tfila, espérons que ça nous arrive, Bezrat Hashem au moins, à Rosh Hashanah Kippour, d'accord? À ce moment-là, lorsqu'il sort, ou un bon Fabringen, entre parenthèses, lorsqu'il sort...
La semaine prochaine, il y a Yitro.
Cette semaine. Ouais. Lorsqu'il sort de la synagogue, qu'est-ce qu'on a expliqué? Automatiquement, il veut qu'une chose. Il veut s'attacher à Dieu. Rucha Berucha, esprit contre esprit. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi s'attacher à Kadosh Baruch Hu? La Zé Amar, c'est pour ça que dans le schéma on nous dit Ve'ayu advarim ha'ele roule al levavecha ve'dibar tabam. Il y a une structure dans le schéma. Qu'est-ce qu'on te dit dans le schéma? Une fois que je me suis préparé au schéma, et que je suis arrivé au niveau de Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol modecha, une fois que je me suis préparé au schéma, et que je suis arrivé au niveau que j'ai compris que toute ma vie je la donne pour Akadosh Baruch Hu, et que j'ai pas de volonté propre, et que peu importe ce que moi je veux, ce que moi je pense, ça change à rien, on n'en a rien à faire de ce que toi tu penses. Qui je suis pour essayer de comprendre les plans d'Akadosh Baruch Hu? Qui je suis pour essayer de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Qui je suis pour demander à Akadosh Baruch Hu? Si t'as fait quelque chose, il t'a demandé l'heure, qui je suis pour demander à Akadosh Baruch Hu? Une fois que je suis arrivé à ce niveau-là, que je me sens tout petit face à Akadosh Baruch Hu, et que je me sens comme un microbe face à Akadosh Baruch Hu, moins qu'un microbe, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi m'attacher à Kadosh Baruch Hu? Dans le schéma que je dis juste après Bechol Levavra Bechol Nafshecha Bechol Modecha Ve'ayu Advarim Ha'ele Hashem Nochim Tzavecha Yom Alevavecha. Une fois que tu sors de la synagogue et tu sens que tu as eu une sensation, tu as envie de t'approcher vers Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas comment faire. Tu dis, ah, comment je peux maintenant pour approcher Kadosh Baruch Hu? Je vais mettre à réfléchir à Dieu, c'est ça que je veux retourner moi? Tu dis non. Ve'ayu Advarim Ha'ele Hashem Nochim Tzavecha Yom Alevavecha. Si tu veux maintenir ce sentiment-là, il faut directement passer mi bet aknes et le bet amidrash. Il faut passer directement de la synagogue à la maison d'études. Comment je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu? Je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du limoud. Comment? C'est la même chose, c'est expliqué dans les Sfarim. C'est écrit que lorsqu'un homme a envie de s'attacher avec sa femme, comment il doit faire pour s'attacher avec sa femme? C'est quoi l'attachement ultime qu'un homme peut avoir avec sa femme? C'est lorsqu'il va étudier avec quelqu'un. Lorsqu'un chassid a envie de s'attacher à son rabbi, lorsqu'un talmid a envie de s'attacher à son rav, comment il peut s'attacher à son rav? Il sent qu'il a envie, il sent que c'est écrit le dov kabo, d'accord? C'est écrit que le dov kabo, et on a la misère de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara Shabbat, elle pose la question, elle dit comment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est impossible de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a dit dans le deuxième chapitre du Tanya? On a dit qu'il faut s'attacher au talmid et chachamim. Mais comment je m'attache au talmid et chachamim? Je peux écouter leur enseignement, mais comment je peux m'attacher à un talmid et chacham? C'est quoi le pshat attaché à un talmid et chacham? Je peux écouter ses enseignements, je peux suivre ce qu'il me demande. Ça veut dire quoi s'attacher à un Talmid Chacham? Ça veut dire quoi s'attacher à un Rav? Ça veut dire quoi s'attacher à un Rabbi? Ça veut dire quoi? C'est quoi s'attacher? La seule manière de s'attacher, c'est quand on étudie avec la personne. On étudie la chose que la personne a étudiée. C'est la seule manière. C'est ce qu'il nous dit ici. Une fois que je suis arrivé à la tfila, une fois que j'ai fait la tfila, et que je me suis senti petit face à Kadosh Baruch Hu, et que j'ai envie que cette sensation se prolonge, j'ai envie de me sentir près d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la seule manière de... C'est quoi la seule manière de maintenir ce sentiment? C'est quoi le but? Le but, c'est quand maintenant je vais ouvrir un livre de Torah et je vais étudier. Et là, quand je vais étudier, c'est ça le Tov Kabo. C'est comme ça que je m'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est Davak Bishto. Mais comment Davak Bishto?
Est-ce qu'il va étudier le livre de sa femme?
Non, justement, c'est ce qu'on a expliqué. On a expliqué que Davak Bishto, que comment on peut arriver à un vrai niveau de Dibouk avec sa femme. D'accord? Les gens, ils pensent que comment on peut avoir...
De deux coutes
avec sa femme. D'accord? Bien qu'on peut dire Dibouk aussi, hein. Les gens ils vont penser que c'est par les relations, d'accord. Mais c'est écrit clairement dans les Sfarim que ça c'est quelque chose qui est temporaire. Comment quelqu'un qui va avoir une relation avec sa femme, une relation durable, qui est sûr que ça ne bougera pas, c'est quoi la seule manière? La seule manière, c'est de parler avec sa femme, de partager avec sa femme. C'est ça le Dov Kabo. C'est quoi le Dov Kabo? C'est quand je partage une idée avec ma femme. Donc quand par exemple je vais étudier avec elle, ou quand je vais écouter ce qu'elle a à me dire et elle va écouter ce que j'ai à me dire, c'est ça les Dov Kabo. Les Dov Kabo, c'est quand on partage des idées. C'est quand, comme il a dit ici, Idabkut Rucha Berucha. C'est quand un esprit va s'attacher à un autre esprit. C'est comme ça qu'on s'attache. D'accord, Yaakov, t'es d'accord ou
pas? Non, c'est pas partagé, c'est imposé.
Yaakov, il se dit, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'esprit? C'est ça la question?
Non, c'est pas ça. Non, mais Yaakov, non, ça fait des histoires, c'est tout. Non, c'est quand tu veux partager, ça fait des histoires.
Il vient de prendre conscience de la chose.
D'abkoudroucha, berucha, c'est pas lorsque je vais dire à ma femme, fais comme ci, fais comme ça. C'est lorsque je vais partager avec elle. Je vais essayer de comprendre ce qu'elle veut me dire. Et je vais essayer aussi de lui faire comprendre ce que je veux dire.
Mais ça fait des histoires, ce
que c'est. Rassé shalom. D'abkoudroucha, berucha, c'est le Zohar qui dit.
Qu'est-ce qui se passe?
Ils sont tranquilles encore. Allez, ils vont comprendre.
Non, il
n'a
pas posé la question.
Oui.
Bien sûr. C'est quoi Sikha et Maïcha?
Oui, mais c'est des paroles inutiles, on dit.
Hein? Ouais. Mais Kamouvan, c'est sûr. L'homme a l'obligation de s'occuper de sa femme. Ça fait partie des engagements de la Ktouva. Et si une femme a besoin de parler, il faut l'écouter. Et si on n'écoute pas sa femme, c'est écrit en Shulchan Aruch que c'est un tsar. Écoute bien ce qui est écrit en Shulchan Aruch. Je te préviens avant qu'il se marie. C'est écrit en Shulchan Aruch que si on n'écoute pas sa femme, c'est un
tsar.
D'accord. Deux secondes. On fait un tsar à la femme. Le Shulchan Aruch dit, Isaher Bonati, je dois faire très attention de pas, donc de ça veut dire de ne pas écouter sa femme, de ne pas donner à sa femme l'attention qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que c'est écrit Mitor Shedimata Metsuya, puisque la femme a les larmes faciles, Akadosh Baruch Hu a les larmes faciles, qui lui viennent facilement, Akadosh Baruch Hu l'écoute. Ça fait partie des engagements qu'on a dans la Ketouva. Ah, des fois, une femme, elle a ses règles et elle ne se trouve aucun rapport. Ok, mais tu t'es engagé. C'est ça que je vais expliquer à cette manière. Je dis, aujourd'hui, dans l'Occident, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, quand tu te maries, c'est la femme qui va faire plaisir à l'homme. La Torah te dit le contraire, tu dis pas du tout. Quand tu te maries,
tu prends le hall.
C'est toi qui dois t'occuper de ta femme. Ah, personne n'a dit que c'était facile. Il faut écouter sa femme, c'est sûr qu'il faut écouter sa femme. Donc,
faut écouter.
Idabkoud, roucha, berucha. Il faut essayer de te mettre dans l'esprit de ta femme. C'est le plus dur, ça.
Faut écouter.
Non, l'écouter, je veux dire l'entendre.
L'entendre, tu veux dire.
Oui, c'est ça. Ah. C'est pas les.
T'as entendu ce qu'on a dit?
Non. C'est pas la même chose.
Tu peux enlever l'iPhone d'abord.
C'est quoi la différence entre entendre et écouter? C'est quoi la différence entre entendre et écouter?
Tu peux entendre, mais écouter, c'est-à-dire suivre ce qu'elle te dit.
C'est comprendre aussi.
Qu'est-ce qu'elle dit, le Zohar?
L'entendre, c'est comprendre. L'entendre, c'est comprendre.
Le Zohar a dit, bon, le Zohar, il parlait de Dieu. Le Zohar, il a dit, Idabkout Roucha Berucha. Le Zohar a dit que comment on peut s'attacher réellement avec quelqu'un, c'est lorsqu'on va... C'est lorsque je vais attacher mon esprit avec l'autre personne. Ça, c'est quelque chose que... Ça, je vous dis, c'est quelque chose qu'on voit chez les grands rabbinim. On voit clairement que pour eux, ce que leur femme leur dit, c'est Kodesh Kodashim. Bien que des fois, la femme, elle paraît bête. Enfin, le parrain, en tout cas, a des années-lumière de son mari. Pourtant, quand elle dit quelque chose, son mari, il écoute comme si c'était Kodesh Kadajim. Pourquoi? Idabkoud Roucha Berucha.
Parce que quoi la raison?
Parce que Idabkoud Roucha Berucha.
C'est-à-dire en français?
C'est quoi le mariage? Idabkoud Roucha Berucha, c'est qu'un esprit doit s'attacher avec un autre esprit.
Ok, rapport.
C'est ça.
Non, je vois pas là.
C'est ça, 100%.
Quand tu me parles du rabbin avec la famille d'Ioc,
c'est que, le rapport c'est que quand ta femme est en train de te parler, c'est pas tu dis je vais faire un chesed à ma femme, je vais l'écouter.
Oui.
C'est pas ça.
C'est les bêtes.
C'est que tu dois essayer. D'accord.
C'est pas enregistré ce que je dis. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir avec moi. Grâce de shalom, c'est pas ça que je veux dire. Mais je comprends pas ton exemple là.
Mais Roucha, Roucha, c'est...
Non, je l'écoute.
Roucha, c'est pas l'intelligence. C'est ce que tu comprends pas.
Moi, j'arrive pas.
Pourquoi tu as fait l'exemple? Pourquoi tu as fait l'exemple d'un grand rabbin, etc. Et sa femme, elle est bête, il écoute...
Ce que tu n'as pas compris, Yaakov.
Yaakov.
Voilà. Qu'est-ce que tu crois, Yaakov? Qu'est-ce que tu crois que nous, on est par rapport à Kadosh Baruch Hu? On est encore plus bête qu'une femme est par rapport à son mari.
Alors ça, c'est enregistré.
Non, pour ton exemple. Le chitatar.
Non mais à Kadosh Baruch Hu il parle.
Non, je dis, c'est selon sa chita.
Ça va finir aujourd'hui.
Non, moi je pose une question.
Marais dit clairement. Marais dit que Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu a donné Bina Yetera Baisha. D'accord. C'est écrit que Kadosh Baruch Hu a donné une intelligence particulière à la femme.
Oui.
On dit que le roi David, il avait même une bracha particulière. Une bracha particulière. Il disait, je remercie Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu a mis les seins de la femme au niveau du corps, du cœur. Quel rapport? Ce qui veut expliquer que la femme, elle est là pour donner à son mari. D'accord? Elle est là pour donner, elle est là pour montrer à son mari qu'elle est là pour lui, etc. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi David, il dit que on remercie Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité qu'on peut faire ça dans les shalom. Gemara Brachot a dit clairement, il disait une bracha, le roi David, il disait Shenatan Bina, non Shenatan Dadim Imkom Bina. D'accord. Ça veut dire quoi? Moi, je c'est déjà l'heure. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Idabkut Rucha Berucha. D'accord.
Ça veut dire
quoi? Idabkut Rucha Berucha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a dit Dadin Imkom Bina. Le roi David dit ça, David Amer.
Dadin
Imkom Bina. Tu arriveras bientôt, t'as un grand abrachot.
Oui.
Les pages,
quelle page?
Les pages 40, je ne me trompe pas.
Ouais, dans 10 ans.
Dans combien de temps je te relance?
Dans 10 ans, tu
ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? Donc je finis avec ça, mais je rattache à on terminera la semaine prochaine. Idabkut Rucha Berucha, c'est pas que l'intelligence de deux personnes va se lier. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. C'est que l'esprit de deux personnes va se lier. Quand moi je vais étudier la Torah, hein, mon esprit va se lier avec l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour répondre à la question de Guy, disons que je vais faire une super tfila. Allez, je me suis bien préparé à la tfila. Je me suis bien préparé, j'ai réfléchi, etc. Et ben au Hashem, après j'ai eu un sentiment de Havat Hashem. Et quand je suis sorti de la tfila, j'ai un sentiment que ça y est, je vais tout faire, je vais tout casser, je vais m'attacher à Akadosh Baruch Hu.
Et okay. Alors
et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais quoi?
Je casse tout.
D'accord.
On va étudier.
Je vais étudier, j'ouvre un livre de Torah.
Donc alors, tu étudies pour faire la fila, et tu fais la fila pour étudier.
J'étudie pour mieux faire une bonne fila, et une fois que j'ai le sentiment que Baruch Hashem maintenant, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu, là après cette fila là, la première chose que je fais c'est quoi? Mes bêtes à Knesset, les bêtes à Midrash. J'ouvre un livre de Torah. Pourquoi j'ouvre un livre de Torah? Parce qu'à ce moment-là, Idabkut Rucha Berucha, je vais lier mon esprit à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on le retrouve dans le schéma.
C'est ce que dit le...
Juste après, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha, une fois que j'arrive à ce niveau-là de Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha, que j'ai sacrifié à 100% mon ego pour Akadosh Baruch Hu, que je n'existe plus, il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi. D'accord? Qu'est-ce que je dis à ce moment-là? À ce moment-là, je dis, que c'est grâce au limud à Torah, c'est ça ce qui va me permettre de maintenir ce niveau d'attachement avec le Kadosh Baruch Hu. Je finis avec ça. La Gemara Zakai nous dit, ce que je te dis, c'est pas une invention. Ou que Moshe Katouf Be'etzraim. Comme c'est écrit dans Etzraim. Qui c'est qui a écrit Etzraim?
Arizal.
Qui c'est qui a écrit Etzraim?
Abichaim
Vital.
D'accord. Élève, c'est pareil.
Abichaim Vital, au nom de son maître, l'Arizal.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas?
Ben oui, c'est pareil.
Shichu Daneshikin Ikaro ou Ikut Chabad Bechabad.
Ah
bah, c'est écrit.
C'est le mot magique.
D'accord. Que c'est quoi Ihru d'Aneshikin? Parce que bon, ça, je vous expliquerai la semaine prochaine, mais le Zohar, il explique qu'il y a plusieurs catégories d'union. D'accord. Il y a plusieurs catégories d'union, pardon. Et l'union la plus élevée, nous dit le Zohar, c'est Neshikin. C'est quoi Neshikin, nous dit le Zohar? C'est Ihru Chabad Bechabad. C'est quand l'esprit d'une personne va se lier avec l'esprit d'une autre personne. Bien qu'on va croire, bien que je vais croire que comment je vais me lier le plus avec une personne, c'est quand je vais l'enlacer, c'est quand je vais le lier, etc. Qu'est-ce qui te dit de être trahi? Qu'est-ce que Rami Ramidar te dit non, c'est pas comme ça qu'on s'attache le plus avec une personne. Comment on s'attache le plus avec une personne? On s'attache le plus avec une personne lorsqu'on va apprendre à parler avec la personne, à lier notre esprit avec la personne. D'ailleurs, j'ai vu récemment, il y a un Mefarech qui explique, qui dit qu'une des raisons, si on peut trouver une raison, pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait tout ce système des lois de Nida. C'est quoi le principe de la loi de Nida? Que pendant la moitié du mois environ, l'homme ne peut pas communiquer avec sa femme matériellement, physiquement. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait ça, selon le Zohar, c'est pour habituer la personne, d'accord, à savoir qu'il y a quelque chose qui est plus haut que le physique. Qu'est-ce qui est plus haut que le physique? Chabad Bechabad. C'est lorsque je vais communiquer avec ma femme. Lorsque je veux comprendre qu'il n'y a pas que le physique, il faut communiquer. Et lorsqu'on va communiquer Yichud, Chabad et Chabad, qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar, Rabbi Chaim Vital, qui tire du Zohar, il nous dit, ça c'est le Yichud le plus grand qui existe. D'accord? Non, je n'ai pas eu le temps de finir. En tout cas, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, d'accord, je vais m'arrêter ici, on voit comment les brachot du Kriyat Shema, bien qu'elles ne sont pas liées à 100% au Kriyat Shema, mais il y a une structure, d'accord, puisque le but de la Tfila en général, c'est de rapetir l'homme à 100%, Tfilas Milachon a Tofel Kliferes, de comprendre constamment comment l'homme est rien du tout face à Kadosh Baruch Hu. Et une fois que l'homme arrive à ça, comment il va réussir à maintenir ce sentiment-là? Va yu advarim aele asha nochim et savecha yom alevavecha, c'est grâce au limud Torah, betrikesel betanimash. Mais Bezrat Hashem, on a encore beaucoup à dire sur cette chose-là, et on finira Bezrat Hashem la semaine prochaine.
Il a quand même embrassé, relâché,
Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais à quel moment, attention, ça je dis qu'il y a les deux dans Nida, il faut les deux, il faut le physique aussi. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est qu'en vérité, il faut les choses qui est plus haut que le physique. C'est ce qu'explique le Zohar. Le Zohar dit que le Yichud le plus grand qui existe, c'est Dabkut Rucha Berucha. C'est l'esprit avec l'esprit. D'accord,
oui, ça, c'est le Yichud le plus grand. Pour arriver à ça, on peut...
Et le Zohar dit plus loin que ça. Dit que le lien qu'il peut avoir, je vais continuer, de la même manière que dans le Yichud Gashmi. D'accord, que dans le, quand il y a une union physique entre un homme et une femme, à quel moment on peut dire que l'union a porté ses fruits? C'est quand il y a des enfants. C'est là qu'on dit que là, c'est une bonne union qui a porté ses fruits. De la même manière, nous dit le Zohar, il d'abkut ou chaberoucha, lorsqu'on va avoir deux personnes qui vont communiquer, un homme et une femme qui vont communiquer, et que l'union de leur communication va créer quelque chose.
Mais quoi?
D'accord, va créer un sentiment, va créer quelque chose. Ils vont avancer ensemble. Ça, nous explique le Zohar, c'est l'union la plus forte qui peut exister. Alors, par exemple, qu'ils vont surmonter ensemble un problème.
Alors, pourquoi il n'y a pas ça à l'Anki
Dushin? Pourquoi il n'y a pas
ça à l'Anki Dushin?
Qui t'a dit qu'il n'y a pas ça à l'Anki Dushin?
Il y a Bia, il n'y a pas...
Fois, à l'Admorazaken, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a posé la question, il a dit, comment on étudie dans la yeshiva chez le malade, dans la yeshiva d'en haut, la Gemara Kiddushin? Tu te rappelles, c'était là, je crois, quand on a fait quoi, non? Comment on étudie? C'est quoi les deux prakins dans Kiddushin? Les deux premiers prakins, c'est quoi? Premier perek, c'est... Aïcha Mitkadeshet. Non, Aïcha Mitkadeshet. Aïcha Mitkadeshet Rachim, vous connaissez Tatma Bishalad Rachim. Et le deuxième perek, c'est quoi? C'est Aïcha Mekadesh, Bo Bishloro. Bon, alors, elle a expliqué, la Mourazaka l'a expliqué longuement. D'accord? Moi, j'ai pas le temps, c'est déjà l'heure. Elle a expliqué longuement comment Ish, c'est qui Ish, Akadosh Baruch Hu. Elle a expliqué comment on utilise la Gemara Bishiva Shelmala dans les Shiva d'en haut. Ish, Akadosh Baruch Hu. Et Isha, c'est Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Et la première Mishnah, par exemple, qui dit que Aïcha Niknet Bishalosh Rachim, d'accord, c'est quoi le Shalosh Rachim? La femme, elle peut être acquise par trois Aïcha Niknet Bishalosh Rachim, Vekonat Atma Bishted Rachim. La femme peut s'acquérir, comment on dit s'acquérir? Par trois méthodes. C'est quoi les trois méthodes? Be Kesef, Bishtar ou Be Bia. D'accord? Kesef, c'est l'argent. Bishtar, c'est quoi?
C'est un papier.
Et Bia,
l'acte.
Comment on expliquait dans les Shiva chez le Mala, hein? Comment on expliquait dans les Shiva du ciel?
Dans la Torah.
C'est quoi Kesef Shtar Ibiya? Il dit comme ça, Kesef, ça veut dire mot Nirsof Nirsafti Levatavi. Ça veut dire l'envie. Ça veut dire c'est quoi?
L'aspiration
vers Akadosh Baruch Hu. Donc comment Aïcha Niknet, comment la Neshama peut s'acquérir à Akadosh Baruch Hu? Premièrement par Ahavat Hashem. Ça c'est Bekesef. Ensuite, Bekesef, une fois qu'on est passé par Ahavat Hashem, qu'est-ce qu'on a expliqué après Ahavat Hashem, qu'est-ce qu'il faut faire? Shtar, la Torah. Après la Torah. Ça y est, la Torah, c'est le but. Non. Bekesef, Bishtar ou Bevia. Gadol, Talmud Torah, chez Mevili de Maasé. La Torah doit amener à l'action. C'est quoi Bia? Bia, c'est quoi la troisième chose? Bia, c'est les relations. Ça veut dire que lorsqu'on va traduire la Torah en acte.
Voilà, c'est ça, c'est les mythes.
D'accord. Donc d'où votre question, vous avez dit, mais pourquoi on doit avoir l'acte? Pourquoi on ne se suffit pas de la marche avant de la pensée? Parce qu'il y a les trois étapes. D'abord, il y a Ahava, l'amour. L'amour va engendrer, juste après l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a Shtar, on a le Limud de Torah. Et après le Limud de Torah, qu'est-ce que ça va donner le Limud de Torah? Gadol, Talmud, Shmevili de Maasé. Il faut que l'étude de la Torah amène au Maasé. Et c'est comme ça qu'on étudie ça, Bishua Shel Mala. Hein? Et la suite après aussi.
Et la Yavama?
Alors? De Kona et Tatma. Jité de Rachim.
La mort du mari et...
Et le guet.
Et le guet, oui.
C'est quoi le guet et c'est quoi la mort du mari? Là, je m'en rappelle plus.